360, l'émission qui fait le tour de la question.
Hop 360, l'émission qui fait le tour de la question.
Hello, hello, auditeurs et auditrices, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien dans Ça dit quoi ? Ne vous enfuyez pas, même si ce n'est pas la douce voix de Loïc qui vous accueille. C'est bien, bel et bien Sophia de l'émission Hip Hop 360, parce que ce soir, on a une petite surprise pour vous. On a décidé de vous faire un véritable crossover entre deux émissions, c'est-à-dire Ça dit quoi en featuring avec Hip Hop 360. Alors, j'aurais aimé faire cette présentation avec Loïc à mes côtés, mais figurez-vous qu'en bon animateur bien consciencieux, il arrive pile poil
toujours
maintenant.
À l'heure. Voilà. À l'heure. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure.
T'as vu comment j'ai meublé ? J'ai rallongé ma phrase exprès pour te laisser le temps de jumper à ce moment-là.
Grave.
Ça, c'est quel professionnalisme. Ouais. Vraiment, on n'a rien vu.
Alors vas-y, allez, enchaîne direct. C'est toi qui présente.
Ah ouais ?
Bah ouais, okay, vas-y.
On fait le texte que t'as dit ?
Non, bah non, pas maintenant. Mais okay. Non, j'ai déjà dit que voilà, on faisait Ça dit quoi, featuring Hip Hop 360. Voilà.
Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ?
Que ça va être une bonne émission.
Yes. On présente les personnes qui sont autour de la table.
Autour de la table, ouais, on se fait un petit tour.
Vas-y.
Comme d'habitude.
Allez, on commence par.
On se connaît pas.
Ouais, et ben on va voilà, on se connaît pas, en voilà. Effet, on se connaît pas. Donc c'est à moi de me présenter.
Enchanté.
On commence avec Benjamin.
Voilà. Benjamin.
Salut Benjamin.
Voilà, moi je suis Benjamin Veil. Voilà.
On se connaît de texto, quoi.
Ah, peut-être, ouais. Ouais, du groupe, en tout cas. Faut faire gaffe quand on dit ça, quand même.
Moi, je suis transparent avec les auditeurs.
Mais qu'est-ce que vous voulez savoir, en fait ? Qu'est-ce que vous voulez que je
Rien,
présente ?
On voulait juste savoir comment t'allais, comment tu te sens. Quand on commence à dire quoi, on aime bien demander aux gens comment ils sont.
Eh ben, même si on ne peut pas dire que l'état du monde soit hyper réjouissant, on essaye de faire aller, on va dire, dans ce contexte.
Bah merci pour cette bonne humeur.
On peut verser des larmes.
Et là, on vient d'entendre la voix de
Marstan. Bonsoir. Écoutez, ça va. Franchement, ça va. Ça ouais. Pourrait être pire ou pas
ouais.
Je ne sais pas, mais ça va.
Je pense que ça pourrait être pire.
Ouais, on va rester sur ça. Peut toujours être pire. Donc, ça va.
On a Chouchina qui va nous rejoindre à un moment donné, donc on entendra une autre voix, quelqu'un qui jumpera lui aussi dans le studio. Voilà, donc on a hâte de la retrouver. Et on aurait dû avoir aussi Fiona et Huguette, mais bon, les deux chroniqueuses de talent.
Du coup, qui vont pas
j'ai...
très bien.
Ah, mince.
Rien de programme.
Fiona, elle est malade.
Bon, c'est des choses qui arrivent.
Huguette, c'était prévu. Donc, on les embrasse toutes les deux.
Ouais, un gros bisou.
Gros bisou.
On souhaite bon rétablissement à Fiona. Voilà.
Et on enchaîne ?
Non, d'abord, je te demande si ça va.
Et toi, est-ce que toi, ça va ?
Non, d'abord, toi, est-ce
Moi,
que ça va ?
Moi, ça va. Écoute, un peu le jus, j'arrive comme ça. tout dans le speed, mais ça va très bien, merci. Ouais. Ça faisait longtemps là, que j'avais pas fait de radio, j'ai l'impression.
Ouais, ça fait un moment que t'as pas présenté.
Ça fait un mois, je crois, un bon mois.
Ça t'a manqué ?
Ouais, grave. En plus, avec un bon technicien qu'on a aujourd'hui, Jason, ça faisait aussi longtemps que je l'avais pas vu, Jason. Comment tu vas, Jay ? Ah, on l'entend pas.
Non.
Il est juste en talkback.
Y a pas moyen. Je lui ai mis un petit coup de pression. Ah mince.
Alors là, vous l'entendez pas, mais là, il vient de dire l'émission est lancée, je peux pas me rajouter.
Donc, il a lancé l'émission et on l'entendra pas, dommage. Mais il nous a fait des gros cœurs. C'est pas vrai, mais c'est pas grave. Du coup, je peux dire n'importe quoi, il pourra pas
tout le droit de réponse. Et toi, Sophia, comment tu vas ?
Écoute, moi, ça va. Je suis trop contente de cette émission conjointe.
Ouais.
De cette idée de featuring, là.
Bah, merci pour cette idée.
Merci à toi d'avoir accepté.
Mais c'est normal.
Voilà, donc j'espère que ça va donner un bon duo.
T'as passé une bonne semaine ?
Écoute,
d'habitude,
ça va.
C'est ça que je pose comme question en fait en début d'émission. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ?
Alors, moi j'étais en Italie cette semaine. Donc franchement.
Pendant que le monde est en train de se bombarder, il y en a qui sont en Italie.
C'est bon, certains prennent des vacances.
Voilà, vraiment.
Elle a raison.
Vraiment, il y en a qui osent tout. Hein. Voilà, et du coup, j'ai un peu coupé avec l'actualité justement. Et
t'as
en vrai,
fait.
Ça fait tellement de bien.
Ouais.
Parce que quand tu prends. Vous verrez dans le sujet d'actualité que j'ai choisi d'évoquer, ça, des fois, ça fait du bien en fait de pas être dans l'écume des jours et de prendre un petit peu de recul sur les actualités et de les recevoir que quelques jours après.
Ouais, c'est clair. De pas être dans le direct, dans le
show. Je pense que c'est important, ça.
Dans l'instantané, voilà. Donc voilà, moi, ça va. Après, c'est un peu le rush parce que j'ai plein de trucs à faire. Voilà, les semaines... Moi, je suis en vacances. Mais les semaines de vacances, quand on est prof,
c'est quoi une semaine de vacances quand on est prof ?
Alors là, en l'occurrence, c'est remplir les bulletins scolaires, corriger les copies que j'avais décidé de corriger avant les vacances, mais que je n'ai pas réussi à corriger avant de partir. C'est préparer les cours de la rentrée. C'est je suis allée au musée de Léonard de Vinci. Ça m'a donné trop des idées pour des trucs que j'avais envie de faire avec mes élèves.
Trop bien.
Voilà.
Ça, c'est un bon prof, ça.
Voilà. Ouais.
Ça fait stylé.
Ça fait grave stylé.
Ok, bon bah voilà.
Celle-là, c'est pour Sarkozy qui dit que les profs ne font rien pendant les vacances. Ah. Voilà. Comme ça, c'est dit.
Tu dates.
ça fait un moment qu'il a dit. En même temps, Sarkozy, il en dit plein de conneries.
Que ce soit lui ou quelqu'un d'autre, forcément, cette année, quelqu'un l'a dit.
Non, mais depuis, il a pas un bras électronique.
Je crois qu'il l'a plus.
Il a pas fait 2 heures de prison ? 15 jours. 15
jours.
Ouais.
Ouais,
15 jours qui ont valu un livre.
De 150 pages. Une page par jour. 10 pages par jour, pardon.
Donc voilà. Moi, ça va. T'as passé une bonne semaine ?
Ouais. Moi, la semaine tranquille, le soleil, ça fait du bien. Une émission hip-hop. J'aime beaucoup le hip-hop et j'aime bien allier l'agréable à l'utile.
Ouais.
C'est ça qu'on dit ?
Ouais.
L'utile à l'agréable. Ça marche dans les deux sens.
Oui. En vrai, ça
on
va.
Peut le dire, on peut le dire.
Si t'avais dit un autre mot, c'était chaud. Genre, ça faisait un
ouais,
peu
là, ça faisait, trop... Le gars qui essaie de sortir des expressions, il fait le mec cultivé, mais en fait.
Mais
comme
là...
certains rappeurs d'ailleurs qui ont des expressions.
Là, juste à inverser les mots, ça va, ça passe.
Ça va.
Bon. On a dit quoi pour la présentation ? On a dit c'est moi qui présente la première partie.
Allez, c'est parti. Ouais.
Vous avez vu comment on a trop bien préparé.
On avait tout un speech. Hein,
ouais, j'avoue. Non, mais on va donc commencer par ce qu'on fait habituellement dans ça dit quoi, la première partie. Un petit before avant de rentrer dans un sujet qu'on vous présentera après.
Un petit tour d'actu.
Voilà, on fait un petit tour de l'actu.
Yep.
Allez, c'est parti. Vous êtes chaude pour le tour de l'actu ou pas ?
Go, prête.
Ok, je vois que j'ai une équipe qui est au taquet, ça fait plaisir. On commence par lequel ? Eh ben tiens, Loïc, tu veux pas nous parler de LeBron James ?
Ouais, LeBron James ou LeBron James, comment on dit
On l'appelle
C'est comme
plus,
Epstein,
maintenant.
Epstein, on sait pas. Non, désolé,
si
ça c'était
sait,
une petite.
Un
petit tacle. Oui, LeBron James, qui dernièrement a été très critiqué sur les réseaux pour ses récentes déclarations lors d'une interview. Il y a une journaliste qui lui demande en gros qu'est-ce que vous avez à dire à vos fans d'Israël, et du coup lui a rétorqué Israël, j'entends rien de mal d'Israël, je leur fais un, voilà, j'aimerais bien y aller,
ça a l'air
ça a l'air cool,
il y a des
tout.
Jolies plages, non mais oui,
exactement. Et du coup il a reçu un tollé, les gens directement on l'a classifié de pro-Israël et anti-Palestine, quoi.
Ok, bon, et alors c'est quoi toi ton point de vue avec ça?
Moi mon point de vue, déjà il y a quelques années il avait déjà fait une déclaration par rapport quand il y a eu les attaques du Hamas et les attaques d'octobre.
Tu parles du 7 octobre?
Oui, du 7 octobre. Il avait fait une déclaration qui avait déjà été critiquée parce qu'il avait dit voilà, le Hamas c'est pas bien ce qu'ils ont fait et tout, et du coup les gens l'ont directement classifié en anti-palestinien et pro-Israël. Bon, il appelait à la... Moi, je suis un peu dubitatif dans tout ça, parce que cette déclaration qu'il a faite là, aujourd'hui, ça, il ne dit pas explicitement « Ouais, voilà, moi, je suis pro-israélien, je suis anti-Palestine. » En gros, il dit « Voilà, Israël, c'est un pays que j'aimerais bien visiter. » Bon, moi, j'aimerais bien visiter la Russie, c'est pas pour autant que je suis pro-Poutine. Voilà, du coup, ça me fait un peu réfléchir sur les déclarations qu'ont les artistes, les sportifs et tout ça. Dès qu'ils disent quelque chose, directement, c'est amplifié. On leur attribue une façon de penser, une façon de voir les choses. Et je trouve ça dommage.
Je vois qu'il y a Maristan là, qui a tiqué, qui a hoché la tête quand tu as fait ta comparaison entre visiter la Russie et visiter Israël. Alors, Maristan, tu nous le fais en cours. Parce que je sais qu'elle pourrait passer une heure et demie là-dessus.
Non, mais je pense qu'on peut être deux à passer une heure et demie là-dessus. Mais il y a un moment où on ne peut plus comparer l'incomparable, quoi. Et là, aujourd'hui, LeBron James qui parle d'aller faire du tourisme en Israël, c'est tellement indécent. Surtout que c'est juste derrière les déclarations de Trump qui rajoute encore une couche sur sa Riviera de Gaza, là. C'est violent, en fait. Et moi, je pense que ce genre de personne sait très bien ce qu'il fait, parce qu'il est entouré, il a une équipe. Enfin, je veux dire, il n'a pas un manager, il doit en avoir 4-5. Il a un attaché de presse, enfin, il a tout.
Donc pour moi, je sais pas si sur le coup il se rend compte. Je pense qu'il se rend compte de la portée de. Il a des fans dans le monde et il faut qu'il peut pas dire n'importe quoi, etc.
Oui, parce que c'est vrai qu'à la base c'est ça.
Ouais, c'est la question, c'est les fans.
Voilà, c'est les fans d'Israël. Ouais. Ils disaient que il voulait aller. Il savait qu'il en avait et qu'il voulait aller les rencontrer et aller là-bas. C'est vrai que de base c'est ça. Je sais pas. Moi j'ai du mal à imaginer qu'un LeBron James soit pas assez entouré ou alors. Je sais pas. Franchement, ça me gêne venant de quelqu'un comme lui.
Ouais. Benjamin, t'en penses quoi ?
Je pense qu'en effet, il y a plein de questions que ça vient poser. Après, il y a la question de la politisation aussi des personnes publiques, dans quelle mesure elles le sont ou pas, la formation politique à certains endroits aussi. Et puis il y a la NBA, enfin quelque part derrière aussi, qui est quand même des institutions, enfin une institution avec des financements privés, notamment avec des financements qui viennent aussi, j'ai envie de dire, des grosses entreprises, dont notamment, par exemple, Coca qui a des liens aussi avec Israël. Enfin bon, en fait, il y a des enjeux à plein d'endroits et je ne suis pas sûre que ce ne soit pas non plus une demande, justement, de son équipe et de ses managers, de lui avoir dit, surtout, ménage tout le monde, parce que ça fait aussi partie des enjeux aujourd'hui, justement, pour pouvoir continuer d'être financé, pouvoir continuer d'être, j'ai envie de dire, de jouer en NBA, il y a des certaines prises de position qu'ils ne peuvent pas avoir aussi. Alors, on ne va pas dire que LeBron James est forcément pro-palestinien, parce que je ne pense pas que ça soit le cas. Enfin,
en tout cas, il ne le montre pas.
Voilà, il n'en dit rien. Mais en attendant, certaines stars peuvent être aussi un peu amenées, guidées à être pro-israéliennes, pour pouvoir continuer de travailler. Ça, c'est des réalités qu'on a vues à plein d'endroits. Pas que aux États-Unis, mais particulièrement aux États-Unis aussi. Ouais. En France, on a un autre rapport à l'engagement. Mais aux États-Unis, le porte-monnaie vaut plus que les valeurs. Hein. Enfin, ça fait... et surtout quand on est une star comme ça. Hein. Enfin, il y a un moment où il y a trop d'enjeux derrière. Voilà. Après, dire ça aujourd'hui dans le contexte actuel où précisément Trump est en train de bombarder l'Iran et le Liban avec des frappes israéliennes aussi, aidées par les Émirats Arabes Unis, par le Qatar. Enfin bon, c'est important de le signifier. Voilà.
C'était avant tout ça.
C'était juste avant tout ça. Okay. Alors, à sa décharge, on pourrait se dire que c'est plus il essaye de ménager la chèvre et le chou. Mais ça n'empêche que quand même, aujourd'hui, ça fait... le 7 octobre, c'était il y a plus de 2 ans et demi. C'est compliqué. C'est quand même compliqué aujourd'hui de voir quand même qu'on est en train de décimer une population entière et de dire « Ah ben, c'est un pays que j'ai revisité. » Et la comparaison avec Poutine, même si je peux l'entendre, la Russie, en tant que pays, c'est quand même un pays qui est millénaire, avec des enjeux éventuellement historiques. On peut avoir envie d'aller voir, par exemple, Saint-Pétersbourg. Moi, ça me fait rêver aussi. Enfin, c'est des endroits pas la même chose qu'Israël. Ou à la limite, Jérusalem, on pourrait se dire « J'ai envie d'aller voir », parce que symboliquement, ce que ça représente. Mais Israël, en tant que pays, il n'y a pas d'histoire, quoi, en fait, depuis 1948.
Bah ça fait quand même une histoire.
C'est vrai que ce que j'aurais envie de dire, pour rebondir justement sur cette question de comparaison, c'est que moi, là où ça m'interpelle, c'est sur la stratégie qui est documentée d'ailleurs de l'État d'Israël, qui est pour eux de normaliser leur existence et leur façon de, comment dire, d'occuper le territoire palestinien. C'est que, notamment, tu faisais référence à la Riviera, je ne sais plus comment il appelait son truc, ça. Là. Mais je veux dire, c'est quand même un pays qui occupe des territoires palestiniens.
Qui colonise.
Et qui a, par énormément de stratégies de communication, de stratégies à différents endroits, essaye de se faire passer pour un pays... lambda.
Et justement, voir pour la démocratie du Moyen-Orient, c'est même pas un pays lambda, parce que c'est pas du tout anodin. C'est l'armée la plus morale du monde. On voit ce que la moralité génère. C'est plus que ça, même. Ouais, ça c'est plus qu'une normalisation. C'est une exceptionnalisation.
Ouais. Alors, je mettais pas le débat sur Israël-Palestine, attention.
Mais d'ailleurs, peut-être on va passer à la prochaine info, parce que sinon on peut rester longtemps
sur
dessus.
Sur LeBron James qui a parlé, et tout de suite on le catalogue. Merci.
Yes.
Et moi, je trouve ça dommage d'être une personnalité publique et d'être direct catalogué sur des petites phrases comme ça, en sachant que LeBron James, il fait pas mal de choses, il œuvre pour pas mal de cause, et le pointer du doigt sur ce petit truc là, je trouve ça dommage, ça efface tout le reste qu'il fait, quoi.
Ok, et ben ce sera la conclusion sur cette actu que tu avais choisi, et ça va nous permettre d'accueillir Chouchina.
Hello.
Salut.
Ça va, Chouchina? Désolée pour le retard.
Je te laisse poser ta question traditionnelle.
Ma question fétiche.
Allez.
Ça va, Chouchina?
Ça va.
Comment tu vas cette semaine?
Bien, merci.
T'as passé une bonne semaine?
Parfaitement.
Bah merci.
Voilà, c'était ça la question. Parfaitement. Next. Next. Allez, sujet suivant. On y va, on enchaîne.
Allez, on va enchaîner avec un sujet un peu plus léger. Marie-Stène, tu voulais nous parler des Victoires de la musique?
Oui, j'avais... Alors, on sait que cette année a été... on a fait une razzia au niveau du hip-hop. Faut quand même le reconnaître.
Ah ouais, ça y est, elle se les accapare carrément.
Ah non, mais le hip-hop, nous avons fait une razzia.
Okay. Attends, rectifie pour la victoire de la musique, c'est les musiques urbaines.
Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, victoire de la musique, pas victoire de la musique, ça c'est un autre sujet.
Te laisse pas déconcentrer. Elle commence à mettre une polémique dans l'actu.
C'est ton actu, vas-y.
Je voulais juste retracer l'histoire en fait de victoire de la musique. Donc les victoires de la musique, c'est 1985. Et la première fois qu'on a entendu parler de hip-hop, rap aux victoires de la musique, c'est 1999. Bon, alors ceux qui ont gagné, forcément, pour nous, ce n'étaient pas les plus représentatifs. Il s'agit de Mano.
Oh non.
Voilà. Oui, je suis désolée. Mais voilà, c'est un premier pas. Après, on a eu 2002-2004, les albums rap hip-hop. 2005, l'arrivée de albums rap, raga, hip-hop, R&B. Donc voilà, on va encore plus loin. 2007 jusqu'à 2019, on a eu... album de musique urbaine, donc ça, qui englobait le rap, quoi.
Et là, c'est fatigant.
Donc, ouais. 2026, on a quand même Théodora qui concourait pour 5 catégories, qui a remporté 4 prix. Donc, elle rafle 4 trophées.
Dont... Ah ouais. Ça a dû mais piquer, vraiment. Mais tant mieux.
Mais merci. Donc, victoire de la révélation sur scène, victoire de la révélation féminine, victoire de l'album, victoire de la création audiovisuelle. Et le prix qui est quand même le plus attendu et que tout le monde veut avoir, bah, c'est This Is qu'il a eu avec l'artiste masculin de l'année. Donc, franchement, cette année, le hip-hop, bah, bravo, quoi.
On peut dire que This Is, il a dit depuis que c'était parce qu'il n'était pas rappeur, qu'il était toujours rappeur.
Ouais, ouais, il a dit qu'il faisait plus de rap.
Non, mais dire, il fait plus trop de rap.
C'est vrai, d'accord, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il avait gagné un truc de pop, en fait. Ouais. Mais comme Théodora qui dit aussi qu'elle fait de la pop. Hein. Mais je sais que ça fait mal. Mais This Is, on l'a perdu.
This Is, on l'a perdu, je suis d'accord.
Mais on fera une émission hip-pop.
Hip-pop.
Hip-hop.
Hype-hop-hop.
Hip-pop.
Hype.
Quand le hip-hop rencontre la pop.
Ça devient hype, pardon. Mais
Non, mais voilà.
Il y a un sujet à faire là-dessus.
Donc, bah, voilà, c'était juste pour illustrer le fait que... Non, pas du tout, que malgré... Voilà, on sait que c'est controversé dans le milieu hip-hop. On a un peu du mal avec les victoires de la musique. C'est pas qu'on a du mal, mais je pense qu'on les a tellement attendus. On a attendu d'être présents dedans. Parce que quand il y a eu Mano, bah, on était tous dégoûtés. Quand il y a eu Orelsan aussi. Oui, oui, je pense. Bah,
faut en tout cas, j'aime bien Mano. Oui,
Mano, il nous représente pas.
J'avais le single et tout.
Mais on s'en fait, effectivement.
On n'est pas du tout représenté par Mano, quoi. Voilà. Même, donc, c'est de la variété. Moi, perso, je le prends comme de la variété, Mano. Oui. C'est pas
mais
du
même
tout
eux,
grave.
Je pense qu'ils se prennent pour de la variété.
Moi, je pense qu'il y a débat. Ouais. Hein.
Il y a débat.
Il y a débat.
Moi, c'est pas le sujet, parce que sinon, on va jamais arriver sur deux points.
Moi, les victoires de la musique, le seul moment que j'ai trouvé chambé, c'est quand il y a le 113 qui arrivait avec sa 504 de chargée.
Ça, c'était pour moi, c'est le 5.
C'est voilà, il y a que ça.
C'est ce qui reste dans
donc
la tête.
Merci les tontons du bled parce que il y a eu ce moment suspendu et franchement en vérité, c'est ça leur a rendu autant service aux victoires de la musique que ça n'a rendu service au rap parce que le rap n'a pas besoin de la validation des victoires de la musique en ce qui me concerne, c'est mon point de vue. Par contre, eux ils ont besoin de la validation du public rap pour se rajeunir parce que les cérémonies ce genre de cérémonie là, franchement, quelle audience ça avait avant que ça se renouvelle. Pourquoi est-ce qu'ils ont intégré des catégories dites urbaines, etc.
Bah justement, juste après le 113, en fait. Parce que l'air de rien, le 113, ils l'ont très mal vécu, les victoires de la musique. C'était une victoire pour nous, c'était pas une victoire
non,
pour eux. Hein.
Bien sûr.
Pour eux, ils ont dit ça plus jamais, en fait. Oui. Donc, ils ont fait en sorte que, justement, ça devienne urbain à partir de 2006. C'est pas par hasard. C'est que, justement, l'urbain devenait cette espèce de fourre-tout où on mettait tous les Noirs et les Arabes, hein,
bien
faut
sûr.
Le dire. Donc, un truc clairement raciste. Enfin, il faut, voilà, faut le signifier aussi. Et qui, en fait, donnait des bribes. Enfin, moi, je me souviens d'une discussion que j'avais eue avec l'ex-manager de Damso, manageuse d'ailleurs de Damso, qui me disait que quand, justement, en 2019, il avait eu... Enfin, c'était 2019 ou 2020, il avait eu le meilleur album, et c'était rap. Elle avait dû négocier pendant 2 ans avec chacun des membres du comité pour que, ne serait-ce que la catégorie existe.
Ouais.
Vous voyez, enfin, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas du tout anodin. Les
c'est
victoires
2019.
De la musique, ouais, c'est 2000, voilà, c'est, 2019, c'est, la, c'est justement la dernière de l'urbain,
ouais.
Voilà. Mais et derrière, il y a, enfin, et ça a été une année, pas l'année suivante. Enfin, c'est dire que c'est des enjeux hyper importants et ils ne veulent pas. L'industrie musicale ne veut pas donner au rap, là pour le coup, enfin, ces lettres de noblesse clairement pas en fait. Ils ne
bien
veulent
sûr.
Pas qu'il existe publiquement.
Ouais. Ils veulent récupérer le public du rap. Sans que ça soit catalogué rap. Exactement.
Parce c'est pour ça que c'est les résultats du stream, surtout.
Ouais, c'est oui, ça. Quand ouais, je dis ouais, le, ouais. C'est voilà, par le biais que, quelle que soit la manière dont tu peux monétiser de récupérer ce public-là, ils veulent le récupérer sans pouvoir, effectivement, pouvoir le laisser à ceux qui le font. Voilà, le Forest by Us qu'on affectionne particulièrement. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien cette irruption du 113. C'était vraiment. Voilà. Une irruption, c'est un bug dans la matrice, quoi. Mais bon, Théodora sera-t-elle un bug dans la matrice? Je suis plus partagée.
Et est-ce qu'elle va durer sur du long terme aussi?
Elle est jeune, hein.
Oui, elle est jeune.
Elle est jeune, très, très jeune, elle a 22 ans.
Hein. Ouais.
Bon, en tout cas, merci pour cette note qui est quand même positive. On la garde comme une note positive. Il y a plein de voilà, il y a plein d'interrogations. Loïc, t'en penses quoi?
Non.
Moi, alors victoire de la musique, moi, ça me fait ni chaud ni froid,
ouais,
j'en
voilà.
ai rien à faire. Et je pense que de toute façon, dans le milieu du hip-hop en France, on a un problème avec les récompenses, toutes les cérémonies, tout ça. On sait pas faire. Attention, c'est mon avis. Hein. On ne sait pas faire, on veut trop calquer sur les États-Unis quand on en fait, alors que nous, on n'est pas américains, on n'a pas la même culture.
Il n'y a pas cette culture de l'entertainment.
On doit faire à notre manière. Et pour l'instant, il y a un truc qui est en train de se chercher, et je pense qu'à un moment, on va trouver.
Tu penses aux flammes ?
C'est ce que j'allais dire.
Je pense aux flammes. C'est en train de... Ça cherche un peu son créneau, comment on va animer les flammes, comment on va faire. Parce que là, pour l'instant, pour moi, c'est encore trop américain. On met un stand-upper à la présentation, on essaie de faire des blagues, des shows avec du feu, des voitures qui arrivent. Tout ça. Bref, pour moi, ça fait trop...
Et parce qu'aux États-Unis, le stand-upper, il host les cérémonies, mais c'est pas la même vibe parce que eux, c'est, tu vois, avec David Lachapelle et ce genre de choses, les mentalités sont pas les mêmes qu'en France. Quand tu regardes, ils essayent de faire des blagues un peu dans le même style. Les Français, ils accrochent pas. Ils sont là. Le public,
ouais,
il est mort.
Il y a pas la même énergie. Il y a un truc de préparation aussi. Moi, j'ai comme ça un souvenir, autour des flammes notamment, où il y a en effet une envie de faire des gros shows avec beaucoup de scénos, avec beaucoup de scénographie autour, ouais. Et je pense notamment sur, c'était je crois la première ou la deuxième session, enfin je sais plus exactement, où Case the Prodigy a performé et elle s'est plantée totalement parce qu'en fait tu ne peux pas construire un show où tu chantes et tu danses en 15 jours, ça marche pas en fait. Pour pouvoir chanter, danser, c'est une technicité qu'en fait la plupart des artistes français n'ont pas, plus à l'américaine pour le coup, parce que c'est plus la technicité comédie musicale, que nous on n'a pas cette culture-là et cette histoire-là non plus. Et en fait, chanter, danser sur un show, sur un plateau, même si tu fais du playback, c'est vachement complexe en fait.
Et c'est là où
ça te demande un cardio, ça te demande un entraînement, et que tu ne peux pas faire en 15 jours.
Elle a traversé en 15 jours.
En fait, c'est que la progra est quasi était à ce moment-là définitif que 15 jours avant. Ça dit la manière dont ça s'organise aussi. Oh, c'est pas non plus hyper encore, ça se professionnalise de plus en plus, mais on sent quand même, entre les retards, les trucs, les machins, on voit que c'est quand même, ça a encore du mal à se professionnaliser réellement. Mais le milieu est pas très au clair là-dessus.
Encore un sujet sur lequel on pourra, revenir dans une prochaine émission. Il y a effectivement matière à poursuivre. Alors, je suis désolée, j'ai évoqué un sujet un peu plus lourd, un peu moins léger, mais ça a été une telle déflagration dans l'actualité que je ne me voyais pas ne pas en discuter dans cette émission de Ça dit quoi. C'est la mort du militant d'extrême droite à Lyon le 12 février dernier, qui a provoqué quand même beaucoup de remous derrière. Donc je fais juste un petit rappel rapide. Il y avait il y avait une réunion à laquelle était invitée Rima Hassan, qui est députée LFI et qui était invitée par l'Institut d'études politiques de Lyon.
Sciences Po Lyon même.
De Sciences Po Lyon. Sciences Po. Ouais. Sciences Po Lyon. En fait, c'est parce que je savais que j'allais pas réussir à le dire.
Voilà, l'IEP de Sciences Politiques de Lyon, qui s'appelle Sciences Po Lyon, qui appartient au réseau des écoles de Sciences Po.
Merci, voilà. C'est tout comme je voulais dire, tout comme elle a dit, elle. Voilà. Donc.
Mais c'est ce que tu as dit d'ailleurs.
Oui, tu l'as dit.
Oui, c'est à peu près ça. Vous êtes gentil. C'est à peu près ça que j'ai dit. Voilà. Donc, cette réunion dérangée, on va dire, pour parler gentiment, par un collectif
des gentils garçons.
Non, Némésis, c'est pas des gentils
un collectif
garçons.
D'identitaires d'extrême droite.
Ouais. Qu'en fait, comme elles se définissent comme féministes, j'avais du mal à mettre le mot féministe dans
mon bouche. Il faut surtout pas les laisser. C'est pas parce qu'elles s'auto-définissent comme féministes que ça veut dire qu'elles le sont. Elles ne font pas partie de l'espace de la cause des femmes, comme on dit.
Oui, bon.
Non, mais en tout cas, l'ensemble des féministes et des organisations féministes ne les reconnaissent pas comme féministes.
On est bien d'accord. Il y a quand même cette difficulté qui fait qu'elles se proclament de ça. Et que quand on est féministe, on a plutôt tendance à dire que les personnes doivent dire comment elles se définissent. Maintenant, vu d'où elles parlent, je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas obligé de leur accorder, de leur laisser certains champs qu'elles souhaitent investir pour un agenda qui est totalement à l'opposé des causes féministes. Mais bon. J'essaye de prendre quand même des précautions dans la manière dont je parle et de ne pas reproduire certaines choses qui sont problématiques. Bref, donc, ces militantes qu'on va plutôt qualifier du coup d'extrême droite qui se prétendent faussement féministes, on va dire, ont du coup voulu empêcher la venue de Rima Hassan, et elles ont l'habitude de se faire épauler par des militants hommes, et c'est un peu une habitude qu'il y a aussi à Lyon de tendre des guet-apens, on va dire, aux antifascistes de cette façon-là.
C'est un service d'ordre, même, je crois.
Oui, mais non reconnu, en fait.
Voilà. Ouais, après, dire service d'ordre, ça voudrait dire une organisation qui est peut-être un peu plus formelle que celle qu'ils avaient. Bon, bref, en tout cas, je vous disais en tout début d'émission que moi, j'étais en Italie. Et c'était donc plutôt une bonne chose. C'est qu'au moment où tout ça s'est passé, c'était juste avant mon départ, j'ai coupé tout de suite les informations et j'ai un peu pris l'information dans un deuxième temps. Donc, je vous livre un peu comment moi, j'ai eu ça. C'est que j'avais déjà l'information que, en fait, ils étaient tous allés sur les plateaux télé, donc Alice Cordier en tête, qui est donc à la tête de ce Némésis, pour dire « ouin, 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 ils ont tué un pauvre saint qui s'était récemment converti au catholicisme, qui était quasiment un enfant de cœur, etc. Voilà. »
Ce qui n'empêche, on en connaît des enfants. Pardon, mais l'Église catholique, on en parle. Non, pardon.
Non. On ne va pas. Non. Bref.
On peut, hein.
En tout cas,
nouveau débat.
Il y a eu vraiment une. Moi, c'est ça que je retiens en fait de ça. Alors, il y a une personne qui est morte. Et rien ne justifie la mort d'un jeune homme.
Surtout dans ces conditions.
Surtout dans ces conditions, t'as raison. Quand bien même il aurait des idées qui sont particulièrement regrettables, on va dire. Et c'est important que dans notre camp, on commence par ces précautions-là. Même s'il y en a d'autres qui ne les prennent pas, malheureusement. Mais je trouve que c'est important de les prendre, ces précautions. Parce que la vie humaine, elle a une importance. Et c'est important de commencer par ça. La manière dont ça a été récupéré par tous les fachos de tous bords, et aussi par une partie de ceux qui se prétendent de gauche pour disqualifier tout un mouvement politique. Je suis pas encarté à la France insoumise, hein, mais ça me les rend presque sympathiques, parce que j'ai envie de les défendre quand je vois la manière dont il y a eu une campagne de dénigrement et qui est totalement injustifiée, surtout quand on voit que finalement ce qui ressort après quelques jours, c'est que, première chose, donc c'est plutôt les fachos qui étaient préparés pour l'action et pas les antifas, que c'était quand Rima Hassan va à cet endroit-là, ils ont demandé à ce qu'il y ait une protection qui a été refusée par la police, qu'au moment où tout ça se passe, que la police est totalement absente. Donc, à un moment donné, je veux dire, quand je vois qu'il y a eu, un passage, et on n'est pas sorti encore de ça, il y a un passage où on en est à dire que l'antifascisme est le nouveau fascisme, mais je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est la fin du monde, quoi. C'est la fin des temps.
Mais ça fait un certain temps que la théorie du fer à cheval, que c'est en cours de construction. Et bizarrement, on a... Enfin, moi,
Jamine.
Oui, pardon, j'ai oublié de signifier. Mais c'est vrai que autant il y a eu cette récupération, j'ai envie de dire classique, contre LFI, mais qui est, j'ai envie de dire la diabolisation des LFI, ça fait quand même 3-4 ans qu'elle est quand même
en
cours.
Ou même plus, oui, c'est documenté
Bon, au moins depuis 2 ans, et depuis, pour le coup, le 7 octobre, c'est très clair, et notamment depuis que Rima Hassan a rejoint les filles. Enfin, c'est pas anodin, finalement, aussi. Mais il y a aussi... Enfin, moi, ce que je trouve le plus choquant là-dedans, c'est qu'il y a eu une minute de silence à l'Assemblée nationale, qu'il y a eu une minute de silence au Sénat, et ça, c'est très grave, parce que moi, j'ai juste envie de rappeler qu'il y a à peine 10 ans, Clément Méric, donc qui était un jeune antifa, qui a été tué par des FAF. Enfin, et où là, pour le coup, personne n'en a parlé. Il s'est retrouvé, des commémorations, on a dû en faire entre nous. C'était un jeune de 20 ans, exactement de la même manière. Et là, pour le coup, il y a eu des minutes de silence nulle part. Donc, en fait, la manière dont aujourd'hui on est en train d'ériger en martyr public
Quentin, parce que c'est son prénom, pour l'humaniser, je pense que c'est important aussi de remettre son prénom, et qu'à côté, alors, et je prends Clément Méric exprès, parce qu'en plus c'était un blanc pareil, hein. Enfin voilà, c'est important aussi de le signifier, parce que bizarrement, quand il y a des crimes racistes par la police, quand il y a des ratonnades, et qu'on en a quand même de plus en plus, et là, il n'y a aucune minute de silence nulle part. On a des jeunes, on a des gamins de 15 à 20 ans qui sont tués dans des ratonnades, que ce soit par la police ou par des individus lambda, qui en fait n'émeuvent absolument personne. Et là, quand c'est un faf intégriste, ça pose... Enfin, on a les institutions françaises jusqu'à une bonne partie de la gauche qui quelque part, lui rendent hommage. Enfin, ça raconte notre situation politique.
Ouais. Mmh. Ouais, ça dit beaucoup de là où on en est. Loïc, tu veux réagir? Je te voyais un peu...
Bah, en vrai, battu. C'est compliqué de réagir sur cette histoire parce que, bah, comme tu disais, Benjamin, il y a deux poids, deux mesures, quoi. À chaque fois...
Il est tellement... En fait, c'est même plus deux poids, deux mesures, c'est ça que je trouve... Parce que je suis d'accord avec toi,
moi,
Benjamin.
Je trouve pas ça étonnant.
Mais juste, je suis d'accord avec toi, Benjamin. Mais je trouve que là, on est sur un point de bascule. Parce qu'effectivement, on le voit monter, ça, depuis presque 20 ans, j'ai envie de dire, malheureusement. Mais là, il y a un point de bascule. C'est même plus deux poids, deux mesures. On ne peut même plus utiliser la même balance, tellement...
Ah, mais le point de bascule, ça fait 2 ans qu'on l'a passé. Hein. Moi, je crains que ça fait 2 ans qu'on l'a passé. Il est juste en train de se... c'est-à-dire que tout autant qu'on était, on était encore dans une forme de déni. Mais ça fait 2 ans qu'il est passé. Depuis qu'on voit que... C'est CNews qui dicte quand même, qui dicte les agendas politiques, que le macronisme 2.0 qu'on a depuis, c'est clairement la porte ouverte, c'est l'agenda de l'extrême droite qui est mis en œuvre. On a eu la loi immigration, on a des enjeux qui sont très forts. On voit quand même dans tous les départements, dans tous les endroits, comment les associations sont, et notamment les associations d'aide aux migrants, d'aide aux réfugiés, sont de plus en plus mises à mal. On a vu la manière dont on a traité le collectif de Belleville. Enfin, il y a plein d'éléments en fait qui viennent nous dire que cette fascisation, elle est en marche. C'est exactement ça. Et c'est la bonne formule. Et en fait, aujourd'hui, on se réveille. Elle est en marche.
Alors,
il a réussi son projet.
Non, c'est notre projet. oui, en fait, c'est limite pas étonnant, en fait, parce que aujourd'hui, les médias et les réseaux sociaux font en sorte qu'on soit tous un peu dans nos bulles à chacun et chacune, qu'on se dise que c'est l'autre, c'est les autres les méchants, les autres les méchants, les autres les méchants. Mais en fait, moi, ça ne m'étonne pas qu'il y ait la gauche caviar qui tente vers la droite. Ça fait un petit moment, quand Hollande est venu au pouvoir. On a vu ce que ça a donné.
On avait vu Valls.
On avait Valls. Et même encore, même avant, non, j'allais parler de Jospin un peu, mais il était un peu, quand même, il était cool.
Non, enfin, mais arrête, même depuis Bérégovoy, déjà, c'était
ouais, mais
c'était
en tout cas, voilà, c'est en fait, là, j'ai l'impression que c'est juste les personnalités qui se révèlent, qui sont en mode, en fait, on se cachait depuis toutes ces années.
Mais comme
et là, on peut, ça y est, les médias, les puissants ont pris les médias en main, maintenant on peut parler, on peut s'exprimer, on peut dire les choses.
Mais ça se voit dans tout, parce que dans les... c'est le racisme, il a toujours... Quand moi, on me sort ça, je me dis, mais en fait, c'est comme tu as dit, Benjamin, c'est du déni. Il a toujours été là. Sauf que maintenant, avec les réseaux, c'est de plus en plus visible, c'est de plus en plus en roue libre.
Il est exacerbé.
Les médias, ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils nous disent ce qu'ils ont envie de nous dire. Après, effectivement, on est dans une... Tu vas avoir CNews, BFM. Même avant, je commençais à regarder France Info. Même là, je commençais un peu à me dire, ça y est, c'est mort. Ouais. Ils sont tous dans cette vibe-là. Ils sont tous en train de nous donner ce que eux, ils veulent nous faire entendre. Là, il y a les municipales qui arrivent. Il faut dire ce qui est. Donc, c'est aussi du matrixage d'une autre manière. Il faut bien qu'on aille dans leur sens et que les petits... excusez-moi de ce que je vais dire, mais les personnes qui sont dans leur petit village ou autre et qui connaissent rien à ce qui se passe et qui disent « Ah bah j'ai vu ça aux infos », alors qu'en fait c'est complètement faux. Donc pour moi, le racisme, il a toujours été là. C'est juste maintenant, on vous le dit ouvertement, ça vous plaît pas.
Ouais. Et là, on est même en train de... C'est un racisme qui se fascise, dans le sens où quand... la dimension fasciste, c'est la dimension systémique, c'est la dimension étatique aussi. Le, même si le racisme est bien sûr systémique et structurel lui aussi, mais on rentre vraiment, ben on l'a vu d'ailleurs, c'est le 49-3, enfin en fait, à partir du moment où ils ont commencé à faire passer des lois comme ça en mode 49-3, on était en dictature, les gars, en fait. C'était fini, la démocratie. Enfin, moi, c'est pour ça que même...
Elle a vraiment existé, la démocratie. Elle est là quand on doit voter.
C'est l'épiphanie démocratique, le moment du vote, même citoyenne. Mais aujourd'hui, même ce moment-là, on a bien vu aux législatives l'année dernière, enfin, il y a deux ans, ça fait déjà deux ans, que ça sert strictement à rien, en fait. C'est-à-dire qu'ils se foutent de notre gueule à tous les endroits. Et tant qu'on continue de jouer le jeu... Voilà.
Maristan, tu veux dire un mot sur le sujet ?
Juste sur la minute de silence, moi j'ai été mais vraiment outrée. Et ça m'a. Enfin, on parle de l'action française et quand on connaît l'histoire de l'action française, c'est quand même. Ils ont tué, ils ont exterminé, ils ont participé.
Alors, juste
à
pour
tout
préciser,
ça.
Effectivement, donc, Quentin Derenque. Donc l'action française
Quentin Derenque en fait faisait partie de l'action française
qui est un groupuscule d'extrême droite qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui a été à l'origine du club de l'horloge, qui était le club qui a amené à mettre Pétain au pouvoir. Je vous la fais courte.
Voilà, merci. J'allais
on pourrait dire plein d'autres choses sur l'action française
et puis sur l'Algérie,
notamment sur l'Algérie.
Je veux pas j'en étais restée à Pétain.
Jean-Marie Le Pen faisait partie de l'action française. Enfin, je veux dire. Là, on a vendu un ange. Il faut me dire, ok. Ben, moi, c'est ça. Enfin voilà, moi la minute, elle m'a. Je pense que de tout, alors le côté raciste, moi je lutte. Alors je vais dire quelque chose qui peut choquer. Je suis anti SOS racisme. Donc voilà, désolée. Donc mais vraiment, c'est très très profondément. Mais donc là, tout ce qui se passe pour moi, c'est une suite logique de ce que je vois depuis déjà très très longtemps. Mais la minute de silence. Moi, j'avais écrit un truc, je vous le partagerai à vous, mais qu'ils appellent le silence de l'infamie. Tellement ça m'a...
Ah ouais, c'est le silence des injustes, moi j'ai même envie de dire.
Voilà, ça m'a... Même d'en parler, ça... Enfin voilà, moi c'est juste cette minute de silence qui restera.
Il y avait eu la manif de la honte peu de temps après le 7 octobre, quand ils ont osé défiler avec le RN, en disant que le RN était pro-juif.
Ça, c'est des gens qui ne connaissent pas l'histoire.
Et là, maintenant, on est sur le silence des injustes. Ça devient vraiment catastrophique, cette inversion de l'histoire. C'est assez flippant.
Le futur, que nous réserve-t-il ?
Bonne question.
Ça doit... Ouais, bon, désolée d'avoir plombé un peu l'ambiance.
C'était cool, moi j'aimais, mais...
Moi j'avais une petite info, si vous voulez qu'on rajoute, elle me fait une ambiance sympa, mais...
T'as une petite info rapide à donner, sympa. Allez, 2 minutes.
Alors 2 minutes, je sais pas si vous avez vu, mais donc Ye, aka Kanye West, était prévu au stade Vélodrome, là, bientôt, et en fait la ville de Marseille, la municipalité de Marseille, a décidé de le boycotter et de le cancel.
C'est sympa, ça dépend pour qui.
Alors, non mais...
On rentre dans un débat encore,
pour ça que j'ai dit c'est sympa, mais c'était ironique, mitigé, c'était ironique de ma part. Donc, alors, en soi, alors, ils le cancellent, ils le boycottent, ils l'interdisent parce qu'il a eu des propos antisémites, nazis, son allégeance à Hitler, la manière dont il traite les femmes, sa conception. Bon, j'ai envie de dire, dans le discours, ok, tu regardes sur le papier. Ouais. Bon, déjà, moi, je ne suis pas forcément pour déjà les annulations, tout ça. Et bizarrement, ça touche toujours que des rappeurs et que des hommes noirs. Parce que bizarrement, à Marseille, Marine Le Pen n'est absolument pas interdite.
Elle habite en
Nîmes. Némésis non plus.
La liberté d'expression, en fait.
Oui, mais ça, justement, la liberté d'expression...
Ils ont envie de le sortir.
Mais j'ai même envie de dire, c'est même une totale erreur, parce qu'elle n'existe pas en France, en fait.
Enfin, Après, je ne sais pas dans quelle mesure tu peux interdire... je veux dire, le stade Vélodrome, ils ont peut-être quand même plus la main pour
dire... Ils ont plus la main, mais il y a des meetings...
Marine Le Pen, si elle veut faire un meeting dans telle salle et que c'est tenu par la municipalité, ils vont pouvoir dire non, mais elle va trouver un autre endroit.
Elle peut tout à fait trouver un autre endroit.
Mais je ne mettrai pas sur le même plan,
il y a quand même d'autres artistes, par exemple, typiquement, il y a eu des artistes israéliens, très pro-israéliens, pro-génocide, qui sont produits au stade Vélodrome de Marseille sans que ça te pose de problème à personne. Donc, en soi, moi, j'ai envie de dire, je suis la première à admettre que Ye est devenu complètement taré et que ça n'a rien à voir avec sa bipolarité, c'est important de le dire aussi.
Parce qu'il avait publié une pleine page dans le
comme quoi il s'excusait, je crois. Et que c'était à cause de sa bipolarité. Voilà. Enfin, la bipolarité à Bondo.
Ses propos.
Je ne vis pas avec lui.
mais au-delà de lui en tant qu'individu et de ce qu'on en pense en tant qu'individu et de sa position, ça vient raconter aussi ce deux poids deux mesures qui est quand même en train de s'installer là, où on se fait où j'ai l'impression quand même que toute la droite se fait passer pour pure et morale, pour être non antisémite et anti-nazi, mais qui vient en même temps faire des minutes de silence pour des nazis dans des institutions françaises. Voilà, ça devrait nous interroger un peu sur l'état de la situation politique actuelle.
Et ben ça reboucle bien avec le sujet précédent, je trouve. Donc c'était un ajout plutôt utile.
Et plutôt positif, du coup.
tellement
positif. Tout dépend de où tu te places.
Oh là là. Bon, eh ben, on a fini ce petit balayage très subjectif de l'actualité avec un petit peu de retard, mais bon, c'était plutôt sympa.
Bah, c'est les aléas du direct. Hein,
exactement. Je suis d'accord avec toi.
On va enchaîner sur la suite.
Ouais, carrément. On a une petite intro pour cette deuxième partie.
Ouais.
Alors Loïc, ça dit quoi ?
Bah écoute, ça dit quoi ce soir ? On vous propose une émission pas très ordinaire. C'est un featuring. On met nos micros en commun pour débattre de la culture hip-hop, plus précisément de l'engagement des artistes de cette culture.
Oui, ce soir on fait une collab pour se poser une question brûlante. L'engagement des artistes hip-hop, nécessaire, souhaité, indispensable ? On remonte aux sources pour que le débat soit implacable.
Ouais, et le rap, on sait, hein, c'est le fruit d'un quotidien difficile, hein, dans le Bronx de la fin des années 70. C'est pas un hasard si l'un des premiers hits rap qui date de 1982, The Message, des Furious Five, a une portée politique en donnant à voir cette misère.
En France, Assassin, NTM et d'autres ont suivi l'exemple. Les uns dénoncent l'État assassine. Trois mots, un uppercut, pas besoin d'expliquer. Quand les autres demandent « Mais qu'est-ce qu'on attend pour foutre le feu ?» Et quand les lois Pasqua ont voulu fermer les portes et les frontières, un collectif entier sortait 11 minutes 30 contre les lois racistes. Véritable tract politique.
Mais attends Sophia, tu crois que les rappeurs sont tout le temps vénères ? Tu penses vraiment ? Youssoupha te dirait « Selon l'humeur, j'écris des vers » à moitié vide ou à moitié plein. Le rap balance entre le festif et le revendicatif. C'est ça le carburant du rap.
Mais oui Loïc, toi-même tu sais. On peut même dire qu'il oscille aussi entre doute et conviction. Esprit Noir avouait, aujourd'hui si on me donnait toutes les armes, je suis pas sûre d'être capable d'aider le monde à changer. Alors, est-ce que l'artiste doit s'engager quand même, même sans certitude de gagner ?
Ouais, mais alors Kenny Arcana te répondrait « Ce monde me rend contestataire, pourtant je rêve de paix et de bonheur. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que je peux pas me taire. »
Et il y aurait Kazé qui enchaînerait pour nous rappeler ce que le silence peut vouloir dire. Il faut dire oui à la tyrannie, au corps éclaté, à la dynamite, tourner le dos à la réalité, consoler le bourreau qui n'a plus d'amis. Bon, se taire, c'est peut-être déjà choisir un camp, celui des puissants.
D'ailleurs, Rossé le disait sans détour. Si t'as pas de projet de société d'humanité, viens pas nous affronter, te la raconter. Ouais, t'as rien à raconter.
Alors ce soir, on pose la question, on ouvre le micro, on lance le débat. Mais avant, un dernier mot, celui de Calbo, citation en forme d'hommage pour planter le décor. La PJ sous une bâche, à qui profite la guerre ? La PJ censure un rap moins violent que Schwarzenegger. Entache mon business, puis cache la vérité. Les coups sont mérités, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. J'ai hérité de la violence, ça afflue sur mes compositions. Qui prétend faire du rap sans prendre de position ?
Bienvenue dans Ça dit quoi, featuring Hip-Hop 360. Jingle.
C'est parti. Pas prêt. Non, il n'y a pas de
bravo,
jingle.
Bravo, bravo, bravo.
Bon, on a planté le décor là.
Ouais,
très très bien planté là. C'est où on va.
Je savais que ce serait repris la dernière phrase
de
Calvo.
Moi j'ai une précision.
The Message, c'est pas forcément le premier rap contestataire.
L'un des premiers.
Parce que c'est une rappeuse. Non, il faut bien que Women Like Hip Hop ressorte quand même.
Alors, oui, mais c'est vrai qu'en écoutant ton émission d'ailleurs. C'est vrai que vous en parlez.
Alors, exactement. Ouais. C'est les femmes qui ont commencé en premier et qui ont commencé à parler de leurs problèmes d'hygiène intime, etc.
Donc, ouais, mais ça, ça compte pas, tu sais très bien.
Oh, bah oui, on est une femme, c'est ça. Voilà. Je rigole, bien sûr. Toujours les mêmes.
Alors, vas-y, remets les femmes sur la carte du hip-hop. Chouchina, on t'écoute.
Bah, à l'époque, en tout cas, déjà, il faut savoir que le rap, il n'était pas contestataire. Déjà, de
alors,
base.
Alors là, je suis pas d'accord.
Bah, pourtant, chroniquement parlant, c'est ça. C'est-à-dire qu'au départ, c'était de l'enjaillement.
C'était du festif.
Festif. Alors, au tout départ,
Je te laisse terminer. 73, quoi.
73, voilà, parce que le départ, c'est 73.
C'est ça.
Je te laisse terminer.
Cool Herc, c'est par exemple, c'est comme la polémique de Cool Herc. On dit oui, c'est lui qui a lancé.
Non, c'est Sylvia Lune. C'est Sylvia Robinson.
Oui, la mère du hip-hop, on est d'accord. Tu vois. Mais non, au départ, il y a eu cette... ils disent, oui, voilà, Cool Herc, c'est celui qui a lancé le mouvement hip-hop. À la base... il était juste DJ. C'est sa sœur qui a eu l'idée de faire la première block party et c'est sa sœur qui a l'initiative de ça. Mais après, on
alors,
dit
parlons
voilà.
du morceau dont tu voulais nous parler.
Mais alors, j'ai pas le nom, je te dis honnêtement.
Ah. Dommage.
Oui, je sais, j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais non, ce que je rebondissais juste sur ce que vous disiez, mais effectivement, à l'époque, c'était les femmes qui sortaient des morceaux et qui parlaient de leurs conditions en tant que femmes dans les ghettos, etc. La contestation, elle est venue de là. Après, effectivement, les rappeurs ont commencé à se servir du fait qu'ils pouvaient rapper, enfin... prendre effectivement leur musique pour parler des choses qui se passaient dans les quartiers. Mais à la base, ce sont encore les femmes qui sont à l'initiative de tout. Moi, c'est ça que je voulais préciser.
Tu peux bien le souligner.
Ouais. Et comme disait Benjamin, elle et moi, on sait, la mère du hip-hop, c'est Sylvia Robinson.
Oui, bien sûr. Enfin, après, désigner une mère du hip-hop, je trouve que c'est un petit peu...
aux États-Unis.
Dans le... Voilà, elles sont nombreuses parce qu'on pourrait en citer d'autres
mais aux
que
États-Unis,
j'ai plus en tête.
Ouais.
Mais... quand je dis que pour moi le hip-hop il est contestataire même au moment où on dit, parce que c'est vrai que c'est souvent dit c'est, au départ c'est de l'enjaillement etc, mais moi j'ai en permanence cette référence en tête, c'est Lady Body, we like to party, we don't trouble, we don't make nobody, we don't... Du coup, je l'ai mal fait.
Anglais
mais
très
en
approximatif.
Gros,
hein,
c'était approximatif. Si je traduis, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que c'est un rappeur qui vient pour dire on est juste là pour s'amuser, on ne crée pas de problèmes, on ne crée pas de troubles. Donc, pour moi, c'est un. Enfin, ils font un point assez fort parce qu'il faut le contextualiser dans ce Bronx des années 70. Il fallait courir plus vite que les balles pour reprendre un titre bien connu.
Justement, dès le départ, c'est politique, mais c'est pas contestataire. Et c'est là la nuance. C'est-à-dire que c'est politique dans le sens où, en effet, dès le départ, l'idée, c'est de faire la fête pour éviter justement et de faire la fête entre les quartiers rivaux pour justement sortir des rixes, ce qu'on appelle aujourd'hui des rixes, classiquement, donc des cafouillages, quoi. C'est vrai. Enfin, voilà, c'est pas plus que ça, en fait. C'est des termes un peu compliqués pour dire des choses très simples. Donc c'est politique à cet endroit-là, mais par contre, le message, j'ai envie de dire, du texte est plutôt du côté du divertissement. Et le message de l'époque, c'est « Peace, love, unity and having fun ».
C'est ça.
Donc « Peace, love and unity et même having fun », tout ça, c'est politique, parce que le divertissement est politique.
On est d'accord.
Mais c'est pas contestataire dans le sens où ça vient pas revendiquer quoi que ce soit directement.
Je trouve qu'on revendique quand même d'être présent dans l'espace public, parce que ce qui était,
mais ça, c'est
ce qui était dénié,
mais c'est pas contestataire.
Ce qui était dénié aux classes populaires, parce que bon, il y avait pas que des noirs, mais bon, effectivement, c'était très c'était très noir. C'est noir et latina pour moi. Je le vois comme ça. Mais bon, ce qui était dénié à ces jeunes là. C'était de pouvoir occuper l'espace public, d'être en bas de chez eux pour juste s'amuser. Donc, moi, il y avait quand même une contestation de l'autorité policière, de l'autorité des villes.
Parce qu'au démarrage, il y a quand même cette idée, à travers la block party, d'occuper l'espace public qui était occupé plutôt par justement la violence et les trafics, hein, clairement, pour le coup, d'occuper l'espace public avec de la fête, de la musique et de rendre beau justement cet environnement. C'est là où c'est plus politique, c'est pas forcément contestataire, c'est même pas pensé comme on va récupérer quelque chose au démarrage. Enfin, c'est d'abord pensé sur le on va juste essayer de transformer quelque chose de l'énergie qui est présente, en fait. C'est une transformation un peu en énergie, ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui un peu d'énergie positive. Enfin, mais de, voilà, de, mais contestataire, pour moi en tout cas, et peut-être que je me trompe, hein, mais pour moi, contestataire, ça veut dire avoir un discours référencé qui conteste quelque chose de précis. Or, c'est c'était ça. Pas dans les textes.
Et puis, le fait mais, de... pardon, mais personne n'a dit ça pour l'instant, que c'est, le rap venait, était de base contestataire. J'ai pas l'impression.
Non, mais déjà.
J'ai pas eu cette impression, hein, surtout même dans l'intro, on, justement, à un moment, on dit fruit d'un quotidien difficile, ce qui rejoint un peu ce que tu dis.
Mais je crois que Sophia a dit clairement, je pense que c'était contestataire.
Mais Sophia, c'est à part.
Ah, d'accord.
Personne n'a dit ça.
Mais tu sais que prendre la parole était, pour en revenir à ce que dit Benjamin, était considéré comme un acte politique. Il y en a qui disaient que c'était des journalistes dits urbains parce qu'en fait ils représentaient leur minorité sociale. Donc c'était pour ça que c'est là où je rejoins Benjamin, dans le sens où c'était pas contestataire. Ça veut dire qu'on monte, en fait ils montraient qu'ils étaient là et c'était leur façon à eux de s'exprimer, que ce soit par une bloc party ou par le rap ou ce genre de choses. Mais c'est comme a dit aussi Sophia, il faut contextualiser les choses à l'époque. Et c'est vrai que le rap, on va dire, engagé dans leurs propos, est venu après.
En fait, il ne faut pas oublier que le départ des MC, c'est l'ambiance et le flow
Maître
arrive après.
Hein. C'est ça.
Voilà, le flow vient derrière. Donc le rap vient derrière, mais c'est des joutes verbales légères, parce que on est quand même de deux quartiers différents. Donc ok, on veut bien s'amuser, mais on n'oublie pas d'où on vient. Si j'ai un dossier sur toi et que tu es MC, tu peux le prendre dans la soirée. Ça commence comme ça, tout doucement en fait. Donc on est vraiment dans un truc où on crée une ambiance, et c'est là qu'on apprend à commencer à faire de la street dance, ce qu'on appellera de la street dance et tout. Donc c'est vraiment au départ, je pense vraiment, créer son endroit, parce que quand t'es noir, que t'habites au Bronx ou latino dans ces milieux-là, t'as rien. Puis t'as rien, c'est pauvre, ça coûte cher d'aller en soirée, tu te fais recal, enfin on connaît l'histoire. Donc ils créent ces endroits pour eux, quoi, ils créent tout un mouvement qui aujourd'hui est le mouvement hip-hop avec tout ce qu'on connaît, quoi.
C'est exactement ça, puisqu'à l'époque, ils pouvaient pas rentrer dans les boîtes disco. Donc c'était leur manière à eux de faire leur...
Mais du coup, est-ce que c'est pas une forme d'engagement? Et dans ce sens-là, est-ce que l'engagement est-il une obligation pour les artistes hip-hop?
Et ben moi,
c'est la question de la journée, la question du soir. L'engagement.
En tout cas, au départ, ils font quelque chose qui n'existe pas, en se disant on n'a pas nos lieux, on n'a pas nos places, on les crée.
C'est ça.
Donc à partir de là, je pense qu'il y a un engagement, c'est de se dire vous nous donnez pas notre place, on la crée. C'est même plus, on la prend. Enfin, c'est même ça qui est génial. C'est qu'ils ont pris la place de personne. Ils ont créé. Ils ont dit, y a la rue. C'est tout ce qu'on connaît. C'est le seul endroit où on peut être. On y va.
Mais après, implicitement, on s'attend à ce que les rappeurs, ils prennent position. Parce que comme ils viennent de minorités ou de quartiers et qu'ils sont là, on va dire, pour des, entre guillemets, représenter les différentes classes sociales, c'est implicite. Ça veut dire que on s'est mis en tête nous-mêmes qu'un rappeur doit forcément, à un moment ou à un autre, s'engager et prendre position au vu de là où il vient, de ses origines, on va dire, de venir dans les quartiers. On a tous galéré. Donc pour nous, on pense que c'est un peu obligatoire à un moment donné de prendre position, de se dire « Elle va nous représenter en fait. T'as la possibilité de nous représenter, représente-nous. »
Mais du coup, est-ce qu'on peut faire du rap neutre?
Il y en a qui le font.
Ouais.
Joule et PNL.
Oh non.
Ah, si, tu parles de sentiment.
Non, mais PNL, c'est. Non, on peut pas dire que PNL, c'est pas engagé, par exemple. Ouais. Et même Joule à sa manière. Ouais. Enfin, Non, à la limite, tu me dirais Aurel San ou Big Flo et Oli.
Je ne trouve rien d'engageant dans leur... Surtout Djoulard. Déjà, Djoulard, je vais être honnête, je ne l'écoute pas.
Oui, mais voilà, c'est peut-être pour ça.
C'est peut-être pour ça. Je ne l'écoute pas, je ne peux pas. Mes oreilles ne peuvent pas écouter.
Et PNL, c'est très politique. J'ai envie de dire, parler de business, l'air de rien, c'est très politique de parler justement des difficultés qu'il peut y avoir. Mais on n'est pas... Et c'est là où, justement, moi, je pense que... Je pense que c'est un engagement, comme ce que tu disais, Loïc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on prend position d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de dire, même pour parler de divertissement, c'est une forme d'engagement. Or, on a eu tendance, et ça, c'est très français et très un peu gauchiste paternaliste, je vais le dire, de considérer que les gens devaient prendre position et qu'être engagé, ça veut dire dénoncer la lutte des classes, les enjeux. Mais ça, c'est une vision complètement française, mais qui est aussi... pour moi, un peu problématique à certains endroits, parce que en fait, il y a un engagement, on vient d'en parler, un engagement extrême droite qui est très clair, très fort, très direct, et qui, là, pour le coup, ne dérange personne. Et il y a des rappeurs d'extrême droite.
Ah, ça.
Ouais. Et il y en a plus qu'on ne le croit, et depuis bien plus longtemps qu'on ne le croit, parce que, par exemple, voilà, il y a des gens qui évoquent le gars qui se prend pour un loup bizarre, là, Cro-Blanc, là. Enfin, voilà, je ne voulais pas dire son nom, mais bon, sinon, je pense que les gens vont repérer. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais ce gars-là est quand même présent depuis la fin des années 90. Contrairement, enfin voilà, il faut arrêter de se faire. Et on le savait, et on savait qu'il existait déjà. On savait que l'extrême droite, en fait, s'intéressait au milieu du rap, parce que populaire, on a eu Soral qui s'est quand même vachement intéressé au milieu du rap, et on en a encore des effets graves aujourd'hui, parce que tous les mascus, merci Soral. Hein.
Enfin,
et Soral a vraiment mis un gros pied dans la sphère rap. Donc, en fait, il y a eu tout un engagement aussi. Le rapport à l'engagement, il est particulier. Et c'est là où, en fait, il y a aussi toute une vision. Pourquoi des gens qui viendraient de quartiers populaires et racisés seraient forcément de gauche?
C'est ça.
En fait. Ça, c'est aussi c'est une vraie question. Et ça, c'est une question, j'ai envie de dire. C'est les là, je vais le dire, en tant que femme blanche, c'est les Blancs qui ont imposé ça dans les esprits en disant, bah non, toi, tu viens de quartier populaire, donc tu vas forcément être de gauche.
C'est du matrixage.
Alors que, j'ai envie de dire, un rappeur engagé comme Kerry James, par exemple, qui est un rappeur qui se dit engagé, quand on a même fait, j'ai envie de dire, sa marque de fabrique, il est de droite. Il faut arrêter de penser qu'il est de gauche. Le gars, il ne parle que de méritocratie, il ne parle que de réussite individuelle, que de black excellence. Enfin, c'est de droite, quoi. En fait, c'est les valeurs de droite.
C'est républicain, en tout cas.
Oui, après, c'est républicain. Parce que républicain, ça peut vouloir dire autre chose encore.
Ouais. Non, parce que c'est vrai que de nos jours, c'est tellement brouillé que quand tu dis être de droite, tu penses forcément à raciste, extrême droite. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fut un temps où il y avait des personnes de droite très respectables qui partageaient des valeurs humanistes.
Qui se cachaient,
avec les gens de gauche.
Ce fut une période très lointaine, ce que tu es en train de dire.
Non, mais c'est vrai que par exemple, moi, je pense à une figure comme Dominique de Villepin, pour qui j'ai beaucoup de respect, ne serait-ce que par rapport à la position forte qu'il avait prise avec Jacques Chirac à l'époque de la guerre en Irak qu'avait lancé George Bush, et ils avaient pour la France...
Il en parle encore aujourd'hui.
Non. Oui, il a raison de se prévaloir de ça, parce que bon, on n'a pas grand mérite sur la scène internationale, on aura au moins eu celui-là. Bref, donc voilà, figure de droite, il n'y en a pas beaucoup comme ça avec qui je peux discuter. On est des adversaires politiques, mais on n'est pas des ennemis. Voilà, mais c'est vrai que de nos jours, on n'a pas beaucoup de figures de droite. Mais moi, c'est vrai que ça me fait penser à une citation que j'avais relevée. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. C'est le groupe L'Entourage, rappeurs qui disait...
Ils sont quand même tous un peu impliqués dans des affaires de VSS. Ouais. Quand même, c'est important de le dire. Hein.
Ouais. Donc, ils disaient,
c'est vraiment un boys club, bien un boys club. Quoi.
Ouais. Bah, d'ailleurs, ils avaient fait une compile où bon, clairement, c'était le boys club. Quoi. Ouais. Désormais, désolé, je veux de grandes sommes, que les dollars pleuvent, devenir des Richard Branson ou des Donald Trump.
Eh ben, comme quoi.
On a dit le nom de tu sais qui.
Voilà.
Du capitalisme.
On a parlé de LeBron James. On est bien.
Voilà, tu vois. Tu vois. Alors après, très paradoxalement, plus tard dans la chanson, ils disent pisse sur la croix celtique, demande du respect comme alliance ethnique.
Ouais.
Bon, mais ils sont un peu perdus, les pauvres garçons. Mais ça montre que effectivement.
Mais ça dit tout du collectif.
Oui, bien sûr. Mais justement, c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire cette citation, parce que ça montre que effectivement, tu peux être engagé d'une certaine manière dans cette promotion du capitalisme finalement. Donc
Et on, si je peux, je peux.
Oui, je t'en prie.
Mais parce qu'en fait, Il y a aussi un autre truc que moi je relève beaucoup, c'est qu'on a tendance à demander au rap d'être engagé. Mais déjà, moi, ça me questionne. Parce que l'art, par définition, en fait, c'est engagé. En fait, à partir du moment où tu donnes ton point de vue sur le monde, j'ai envie de dire que tu fasses de la variété, que tu fasses de l'art pictural, que tu fasses de la danse, des performances, j'ai envie de dire quoi que tu fasses, c'est de l'engagement, parce que tu te donnes engage, en plus c'est ça l'art, c'est-à-dire que vraiment c'est tes tripes que tu donnes engage. Donc de fait, je comprends pas pourquoi on veut que le rap soit plus engagé qu'ailleurs. Alors que ça soit une culture qui questionne, avec une dimension politique qui la traverse, tout ça, oui. Mais l'engagement des artistes, ça c'est autre chose. Enfin...
Je pense pas qu'on veuille que ce soit plus engagé qu'ailleurs, mais qu'il y ait une position assez claire à gauche, du coup. Parce que quand on a des... dernièrement, il y a eu Nicki Minaj
Qui est parti.
Qui a pris une position, et même Kanye West, qui a défendu Trump à un moment. Et ça leur a tout de suite tombé sur la tête. Ça. Parce que, toi t'es... T'es noir et tu fais du rap, du coup, mais qu'est-ce que tu fais avec cet énergumène?
Sachant que la gauche n'existe pas aux États-Unis.
Mais oui, mais au-delà du fait d'être noir, c'est aussi des noirs, c'est des gens de gauche. Enfin, oui, la notion n'existe pas aux États-Unis, mais c'est des gens du ghetto, des antiracistes qui t'écoutent. Donc c'est la base de ta base fan, c'est ça en fait. Mais par contre, à l'inverse de Nicki Minaj, ce qui est génial, c'est quand même que Cardi B, elle a repris une position là, par contre, elle a pris une position que. Qui est plutôt affirmée, elle n'a pas trop peur, elle y va, elle défonce Ice en plein concert, il y a des réponses sur les réseaux, c'est-à-dire que même Ice lui répond sur Twitter, donc elle y va quoi. Et je me dis, bon.
Alors Ice, c'est la police anti-immigration qui chasse, pour les gens qui vivraient une grotte, il faut quand même expliquer que c'est...
C'est pas de la glace.
Alors oui, effectivement, c'est même pas des... Pour une partie des agents, c'est carrément des milices, donc c'est-à-dire des gens qui sont payés... sans être agents fédéraux et qui traquent les immigrés en utilisant notamment des moyens de surveillance globale.
Alors, ils ne traquent pas les immigrés, ils traquent les personnes qui semblent être...
C'est les immigrés.
Normalement, voilà. Parce qu'on a quand même des Américains qui se sont retrouvés aussi dans leur camp. Hein. Donc,
Bien sûr, mais parce que justement, ils utilisent un profilage...
Pire même des États-Unis.
Bon, donc, elle a défoncé Ice.
Je voulais
juste faire la précision.
J'y arrive. Mais oui.
Non, mais en France, on a aussi. On parlait de Nicki Minaj et Cardi B, tout ça, mais en France, on a aussi nos figures de droite, un peu, qui représentent la droite dans le rap.
Pour moi, le premier, c'était Doc Gynéco.
Ouais.
Bien sûr.
Parce que ça a été le premier. Ça a été un sacré truc, quand même, quand il a soutenu Sarkozy. Ça a été un peu une déflagration, quand même.
Alors, oui, enfin, ça dépend pour qui.
Ça
j'ai envie de dire.
Je parle pas de personnes qui.
Parce qu'on savait quand même, le gars depuis 97, il nous disait je viens faire de la variette, il est parti à Los Angeles faire son album, il était kiffé que par des gens de droite. Enfin, il y a un moment où aujourd'hui les jeunes en ont fait un truc un peu genre, mais quand même on avait pas mal d'indices que le gars il le disait, hein, moi j'en ai rien à foutre du hip hop, ce que je veux c'est faire de la variette, ce que
classer
je veux
moi dans la variette.
Mais voilà,
il avait clairement dit
depuis 96 quoi. Enfin, donc finalement quand 10 ans après il va soutenir Sarkozy, sommes-nous vraiment surpris? On est surpris qu'il l'assume publiquement.
Tu le dis,
c'est ça.
Non, je t'assure que sur le moment...
Moi, sur le coup, très naïvement, très naïvement, sur le coup, j'étais surprise qu'il l'assume publiquement.
Ouais,
clairement. Ouais. Oui, je veux dire, Doc Gynéco, je l'écoutais depuis ses premiers sons.
Il avait fait un feat avec Tapie, quand
donc,
même, avant.
Ouais, mais même ça, tu vois.
Moi, je trouvais ça génial.
Ah ouais? Pourquoi tu trouvais ça génial?
Moi, je trouvais ça fou, en fait. Non, mais parce que Tapie, c'est quand même... Enfin, à l'époque, c'était l'escroc français qui a été ministre. Enfin, moi, moi, j'étais jeune. Hein, vraiment, c'est un regard de jeune. Aujourd'hui, je me dis, c'est vraiment une dinguerie. Pourquoi j'ai pas vu
naïvement, comme vous l'avez dit, naïvement.
Non, puis à l'époque, j'étais même pas. Enfin, moi, politique, tout ça, alors là, on va pas se mentir, pas du tout. Donc, je trouvais ça ouf, un rappeur avec un ancien ministre. Genre, rien que la phrase, hein, un rappeur et un ancien ministre.
Qui avait acheté le match de l'OM.
Mais oui, et l'OM.
Il a ramené la coupe à la maison, vas à Marseille, il est pardonné.
Mais bien sûr, mais ça, on peut pardonner certaines transgressions. Moi, j'ai pas de problème là-dessus. Mais c'est vrai qu'en tout cas, de ma place à moi, c'était pas une surprise, c'était plus un aveu. Mais qu'il faut voir aussi que cette même année, il y a quand même eu Lino, Diams et Diziz. enfin non, Jams & Dizzy, Lino ça a été plus tard avec ELV, mais qui ont amené leur soutien à Ségolène Royal et sont présentés dans son meeting. Donc en fait c'était aussi un peu la tendance de 2005, enfin de ce moment-là, enfin de près 2007, parce que c'était sur les élections de 2007, et que quelque part que les rappeurs choisissent un camp politique, même si la base qu'on était, je sais pas vous, hein, mais on était là, mais qu'est-ce que vous faites les gars là?
Mais justement, à cette époque, je trouvais ça très bizarre.
Ah ouais, c'était bizarre.
Qui se mettent à chanter dans des meetings et tout, je me disais, mais en fait, les gars, vous rentrez dans un système.
Ah non, mais par
alors
contre,
que de base, venez, on est anti-système.
Mais ouais. Voilà, oui, venez, on n'est pas là-dedans.
Mais pourquoi un rappeur ne peut pas prendre position pour un parti politique? Pourquoi il n'a pas le droit d'aller en politique?
Non, mais ils peuvent, mais en vrai, ça fait bizarre, surtout quand t'entends des textes de Jams. Où tu vois ce qu'elle dit au niveau de la politique, de tout,
du système.
Tous ces textes, tu te dis, bah en fait, qu'est-ce que tu fais là? En fait, ça va à l'encontre de ce que tu dis. Enfin, pour moi.
Après, pour la période où ça a été, je rappelle que Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il avait fait quand même beaucoup de sel en tant que ministre de l'Intérieur.
Bah, c'était le moment où il avait parlé d'une
théâtre de Carcher. Excusez-moi, je me fais l'avocat des personnes qui sont allées. Donc, je pense à ce moment-là aussi que elle a dû même y réfléchir, mais elle est Diams à ce moment-là, 2007, elle est quand même au sommet. Donc quand elle y va, c'est aussi pour fuck Nicolas Sarkozy, enfin je pense beaucoup. Et en montrant aux gens, il faut se politiser parce que alors elle choisit Ségolène Royal à ce moment-là, mais je pense qu'elle lance un message, tu vois, derrière que et alors là vraiment très personnellement à l'époque. Je rentre dans... moi aussi, je découvre la politique à cause de Nicolas Sarkozy qui expulse un squat à Cachan. Et j'habite Cachan.
Le squat de Cachan.
Et donc,
2004,
je découvre la misère à l'état pur et la haine à l'état pur. Donc, et ça me politise à partir de là, en fait. Ouais. Voilà.
Je vois bien, tu avais dû croiser Chefa là-bas.
J'ai croisé beaucoup, Dieu merci, vraiment, de gens bien qui sont venus.
Tu te souviens de cette époque?
Ouais, bah, c'est pour ça.
Comment
que...
Comment tu l'as vécu, toi?
C'est pour ça que j'étais un peu... Enfin, ouais, moi j'étais vraiment, comme je dis, étonnée, parce que peut-être moins sur l'engagement de gauche, mais oui, l'engagement de Doc Gynéco, je me dis, mais c'est un délire, un rappeur de droite, mais c'est une oxymore. Pour moi, c'était une oxymore.
Alors qu'en vrai.
Mais après, voilà, à cette époque-là, peut-être j'avais moins cette grille de me dire, mais même effectivement, même un engagement à gauche. Alors après, effectivement, des rappeurs et des rappeuses qui poussent les jeunes à aller voter, c'est différent. C'est pousser les jeunes à l'action et à eux-mêmes être engagés. Soutenir Ségolène Royal, quand on voit ce qu'est le Parti Socialiste. C'est une catastrophe. Après, bon, à l'époque...
Il y avait encore de l'espoir à cette époque.
Oui, mais là,
il y avait encore de l'espoir.
T'as vu, t'es en train de dire que d'inciter les jeunes ou les personnes à aller voter, c'est bien. Mais c'est
non,
leur...
Non, non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit à l'engagement politique.
À
c'est
l'engagement politique.
Et l'engagement l'engagement politique... L'engagement politique, pour moi, il se manifeste pas forcément au moment d'une élection. C'est important de vraiment dissocier les deux
d'accord.
Parce que vu comment c'est devenu un carnaval les élections à notre époque et avec vraiment le climax qu'on a eu il y a 2 ans, on doit vraiment faire la distinction entre les deux.
Bah, c'est leur manière à eux en fait de demander aux gens d'aller s'engager politiquement, que ce soit au moment des élections ou pas. C'est comme par exemple tous ces artistes qui ont pris position. Quand on arrivait au présidentiel, tu vois qu'il y a le FN qui arrive, enfin le RN maintenant, et qu'on te demande tous d'aller dans la rue ou d'aller voter, etc. C'est la même chose. Sauf que ce qui nous choque, c'est juste parce que de gauche, allez, on accepte, de droite, on n'accepte pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est ancré en nous du fait qu'un rappeur doit forcément aller vers la gauche. Alors qu'en fait, non, c'est sa prise de position à lui. Et de lui, et il dit, bah, allez soutenir les politiciens. Moi, je soutiens cette personne-là. À vous de faire ce que vous avez à faire. Mais c'est de l'engagement en soi, à n'importe quel moment. C'est juste que la droite dérange.
Ouais, après, moi, ça me questionne aussi, en fait, en soi, de dire, engagez-vous auprès d'un politicien. Donc, moi, ça me questionne.
Moi,
parce que, étant donné que le système de la Ve République est quand même un système que, justement... Là, je vais faire référence à Lino et notamment à Radio Bitume, justement, qui nous explique bien comment... Voilà, on est quand même sur des systèmes qui sont des systèmes où allons brûler, à l'Élysée, brûler les vieux, les vieilles. Il faut bien qu'un jour, ils payent. Ça serait quand même plus cohérent. Et d'aller voter pour les y remettre, moi, ça me questionne, en fait. Là, par exemple, je vais prendre un exemple. Là, il y a la tournée de Grunt pour les municipales. Enfin, plus SOS racisme, on meurt. Hein. Enfin, comme démarche. Déjà, le public de Grunt est un public déjà hyper blanc, en plus de petits bobos. Enfin bon, déjà, donc, on va commencer par le début. Ça ne touche pas les bonnes personnes. C'est ce qu'eux, ils espèrent toucher. Genre la jeunesse, machin truc. Là, les grands discours sur « attention, le RN est au pouvoir ». Enfin, le RN est déjà là, les gars, en fait. Enfin, ça, Quentin, enfin voilà, c'est la démonstration que le RN, il est déjà en place. Macron nous fait croire, on nous fait croire que les républicains, là justement, au sens arc républicain, feraient barrage au RN. C'est faux.
Et puis, pardon de te couper, mais je vais ajouter de l'eau à ton moulin, c'est qu'il ne faut même pas attendre le décès de Quentin Derenc. C'est que, je veux dire, il y a un an à peine, la droite faisait voter une loi en utilisant les députés, en s'alliant avec des députés RN. Donc c'est bon, c'est acté déjà depuis un an.
Et j'ai envie de dire, pas que la droite, enfin, le macroniste, le PS aussi, les écolos aussi, le PCF aussi, certains endroits. Donc aujourd'hui, moi...
Bon, on va se calmer,
là. Non, mais c'est dire que... Et j'ai même envie de dire, et LFI n'est pas parfaite non plus, hein, parce que bon,
mais
voilà...
Ils sont tous pas parfaits.
Donc il y a un moment où... En fait, est-ce que c'est au rap de cautionner ce truc-là, de faire des prises de position, moi je trouve, voilà, qui viennent questionner le système et qui viennent questionner aussi le système de cette Ve République, le système du vote, moi j'aimerais l'entendre en fait. Je trouve qu'on, voilà, par exemple, à l'époque, je ne vote pas, la politique constitutionnelle ne passera pas par moi, c'était quand même un enjeu politique important. Aujourd'hui, on n'entend plus jamais ça. En fait, on n'entend plus jamais que la politique se joue ailleurs que dans les urnes. Et que donc, c'est pas parce que... En plus, les municipales, il faut savoir que les municipales, on vote pas du tout de la même manière aux municipales qu'aux présidentielles. Il y a des enjeux. Quand on connaît un peu la politique, les modalités politiques, les municipales, c'est un enjeu ultra local. Donc, où les gens, en fait, ils votent pour des têtes qu'ils connaissent. Et donc, ils ont vu et expérimenté. C'est pas une histoire de couleur politique, malgré tout, qu'on le veuille ou non. Enfin, donc... et c'est de qui va au marché, à quel endroit, de machin. Donc, c'est pas la même chose qu'au présidentiel. Donc, même si, oui, les maires élisent les sénateurs qui peuvent valider les lois, enfin, on est bien d'accord quand on connaît un peu le système institutionnel français, les municipales sont pas des élections qui déterminent les présidentielles, qu'on le veuille ou non.
Alors, moi, il y a un an, je vous aurais sûrement dit « Ouais, pour moi, si tu fais du rap, tu dois être engagé ». Alors, si tu fais, enfin, t'es pas engagé, vraiment, je t'écoute pas déjà. Comme ça, le problème, il est réglé, donc je ne te connais pas.
T'as jamais écouté un rappeur ou une rappeuse juste parce que tu kiffes son flow? Je pense, par exemple, du rap américain, tu dois bien en écouter sans capter le délire.
Ah oui, sans comprendre ce qu'il dit, c'est parce que j'aime le flow.
Ah, ben voilà.
Mais vraiment. Ouais. Mais après, en France, non. Et pourtant, j'aime le rap français.
Donc ça se trouve, t'écoutes des morceaux... Où t'aimes le flow,
mais alors je détesterais le flow
et que tu ne sais pas ce qui est dit en fait. Mais c'est malheureux,
mais non,
mais c'est malheureux.
Trump,
quelle tristesse!
Fond Trump dans la caisse.
Écoutez, ça se trouve, sans savoir. Alors, ça se trouve, en train de t'insulter de tous les noms.
Je te jure, peut-être.
À vous, t'as un son Nicki Minaj dans ta playlist.
Tiens, je te jure, impossible, jamais. Et aujourd'hui, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, j'ai mis de l'eau dans mon moulin. Alors, j'écoute pas plus, mais là, celui qui va prendre, qui va faire le choix aujourd'hui de s'engager, je voudrais pas être son gilet pare-balles.
Bah justement,
il y a quand même qui est vachement engagée,
oui,
par
mais
exemple.
Bien sûr, mais elle se fait. Mais voilà.
Mais je vais juste profiter de ta transition que tu me donnes.
Magnifiquement bien.
Justement, on va parler de l'engagement. Est-il un risque aujourd'hui? Est-ce que réel risque de s'engager de par le rap, par la musique?
De nos jours, quand tu regardes les artistes, eux, c'est leur fanbase avant tout. Donc, s'ils prennent position, tout de suite la fanbase réagit. T'as aussi t'as les haters derrière qui agissent aussi. C'est compliqué pour eux, alors qu'eux, ils essayent d'être, on va dire, au summum, de percer tant bien que mal, vu tous les artistes qu'il y a. Et tu vas leur demander de mettre en danger tout le travail qu'ils ont fait pour arriver là. et en même temps de mettre en danger leur carrière pour une prise de position. Il y en a qui vont avoir, excusez-moi du terme, les couilles de le faire, comme par exemple Kerry James ou Medine aussi. Mais regarde Medine, Medine il est boycotté, il est pas mal boycotté quand même.
Parce qu'il est de gauche. Kerry James vachement bon.
Ouais.
Après son public, Medine il a toujours eu le même public un peu.
C'est ça,
dire,
comme Kerry James, c'est pareil. Kerry James il a aussi le même public.
Ah Kerry James avec.
Ça a évolué, je
ça
pense.
Ça évolue hein, avec Bandeza ouais, mais... et tout. Il a toujours une nouvelle, enfin il arrive à ce qui va réécouter, qui enfin.
Ouais mais sinon t'as une base quand même
oui, bien sûr.
Qui est
bien
la même. Quand tu reprends hardcore de l'époque, ah bah. Voilà.
Oui, là, mais c'est plus le Kerry James aujourd'hui, hardcore.
C'est ça. Mais j'en ai perdu mon fil.
Pardon.
Et sur le coup, ouais, donc je disais, ils n'ont pas forcément les couilles. Ils n'ont pas forcément les couilles de prendre position par peur de perdre leur fanbase et de perdre tout ce qu'ils ont réussi à mettre en place. Je ne dis pas que c'est bien, attention. Je dis juste qu'eux, il y en a certains, et ils ne sont pas tous comme ça. Qui préfèrent être neutres en se disant « je ne vais pas prendre de risques parce que je n'ai pas envie de mettre en danger ma carrière ».
Et c'est là toute l'ambiguïté, c'est que c'est vrai que c'était plus facile d'être engagé quand il n'y avait pas de carrière. Et j'ai envie de dire de la même manière que nous tous autour de la table, face à nos, j'ai envie de dire, nos... Enfin, moi, je sais que mes prises de position font que je perds des marchés, quoi. Enfin, je vais être très claire. Moi, je suis quelqu'un qui prend position régulièrement. Chaque fois que je fais un post sur Instagram, je perds 15 personnes. Enfin, vous voyez, enfin, et je sais aussi que j'ai des territoires. Moi, je travaille dans le travail social et j'interviens auprès des équipes de travailleurs sociaux. Et même si, voilà, maintenant, les gens me googlisent, tout ça, et je sais qu'il y a des territoires entiers où je ne peux plus aller travailler parce que j'ai pris des positions. Donc, en fait, prendre des positions, ça a un coût social, ça a un coût carrière et un coût économique réel, justement. Et être engagé, en fait, pour moi, ça ne va pas avec le fait de récupérer sur l'engagement financièrement. Ça ne marche pas, en fait. C'est forcément à perte, l'engagement. Ça. Et donc, à partir du moment où il y a des carrières en jeu, l'engagement... Pff. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai presque trouvé presque le plus désolant, c'est qu'à cet endroit-là, c'est très bien qu'il y ait des gens qui puissent en faire des carrières, mais que tout le monde veuille en faire sa carrière. Et moi, je trouve d'ailleurs que, par exemple, des profils comme Rosset, qui savent toujours justement être très engagés, il en vit, mais en faisant d'autres choses. C'est ne fait pas que du rap.
C'est ça.
Il il a aussi une boîte d'édition, il a des missions à droite, à gauche. Enfin, c'est aussi, je pense, le fait de vouloir être rappeur qui pose question. Moi, je trouve.
Mais c'est ça, quand tu regardes la nouvelle génération, enfin, l'ancienne, ils font d'autres choses où ils s'engagent. La nouvelle génération, enfin, ça, c'est mon point de vue, si ça n'engage que moi, ils sont là, ils font leur carrière, et avec l'argent qu'ils amassent, ils vont se faire du business à côté. Donc, ils sont vraiment en mode capitalisme et ils ne sont pas forcément...
Je vais nuancer un peu parce que je trouve... Voilà, vieux, ancien voilà, et vieux.
Du tout, parce que moi, je vais
c'est
donner...
pour ça que je dis, c'est mon opinion et je trouve qu'effectivement, sur ce que je vois, en première ligne, c'est ce qui ressort. Même si je sais que tu as beaucoup de nouvelles générations qui s'engagent derrière d'une autre manière par des biais associatifs, etc.
Mais pas que, parce que par exemple, tu vas prendre des Youssef Swat, des Deuxel, c'est quand même là, il y a une jeune génération ultra engagée, Naïra, tout ça. Enfin, en fait, et moi, j'ai vu plein de vieux, je suis désolée, vouloir faire carrière absolument, pas vouloir lâcher la scène et être vraiment...
Il y en a
tellement. Et des aigris finis qui se disent engagés, mais qui en fait, qui pètent le seum, quoi. Enfin, donc... j'ai fait vite parce que je sentais que Sophia, t'avais un truc à dire, pardon.
Bah, ça va dans le même sens, et puis je rajouterais à ça un élément important aussi, c'est que la liberté, on peut aussi se la créer, et on voit notamment comment... souvent, on peut relier les artistes qui peuvent se permettre de prendre des positions assez fortes. En général, c'est des gens qui se sont éloignés des majors, qui sont pas dans des maisons de disques.
Youssoupha.
Voilà. Donc, t'as Youssoupha, t'as Medine. Je pense à Kenny Arcana aussi. C'est clairement Rosset, que tu as
cité. Naïra, Issa Yasuke aussi, qui est pour le coup hyper engagé à plein d'endroits. Enfin, et il y a aussi plein de nanas qui sont très engagées. Deuxel, dont on parlait aussi. Enfin voilà, il y a plein de formes d'engagement, mais à d'autres endroits et pas forcément dans le mainstream.
Quand on revient à l'exemple de Nicki Minaj, par exemple, c'est intéressant. C'est vrai que tu parles du fait qu'il y a un coût par rapport à... aux positions qu'on prend, un des éléments qui est très vite regardé, c'est le nombre de followers qu'elle a perdu.
C'est ça.
Ouais.
Bah, donc effectivement, c'est vrai qu'on est aussi à une époque où il y a une instantanéité, c'est-à-dire que tu prends position,
à midi, à midi 01, ça a un impact direct sur la perception qu'on a de ton audience potentielle.
Dans les minutes qui suivent. Hein.
Dans
ça
les
réagit,
minutes qui suivent.
Ça réagit direct.
Ça peut être dans les deux sens. Tu peux gagner des streams ou en perdre. Tu peux gagner des followers ou en perdre. Mais il y a quand même une époque aussi où tu prenais position. Bah, ton album, il sortait 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Où tu faisais des concerts quelques semaines après. Il y avait quand même une certaine latence avant que tes positions, elles puissent avoir un impact aussi. Donc il y a aussi quelque chose qui se joue dans qu'est-ce que je peux me permettre de dire ou pas, sachant que ça va être instantanément répercuté dans mon business finalement.
Et le choix des mots après, c'est ça, t'as le choix des mots, parce que des fois tu peux être maladroit dans la façon dont tu veux dire quelque chose. Et c'est immédiat, quoi. C'est impressionnant le nombre d'artistes qui se font lyncher par juste une phrase ou une réaction. C'est impressionnant.
LeBron James. J'ai placé ça là comme ça.
Regarde, parce qu'à force de le dire, tu sais que les jeunes l'utilisent d'une autre façon, ce
c'est
terme.
Vrai.
Donc,
c'est vrai.
Fais gaffe.
C'est quoi l'autre façon?
Ah, je t'explique après.
D'accord.
C'est pas en micro ouvert. Parce que je pense que t'es pas prête. Si tu sais pas, c'est que t'es pas prête.
Arrête, c'est mon mari, bonjour. Les bronnes en plus.
Tu vois, les bronnes.
Oh, mais ça y est, j'ai compris. Voilà. Oh merde. Oh, pardon. Je vais plus le voir de la même façon.
Et t'écoute si tu voulais réagir.
Je voulais dire, en fait, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, je pense que quoi que tu dises, quelle que soit la manière dont tu le dises, tu prends un tollé.
Ouais.
Là, aujourd'hui, j'ai l'impression que n'importe quoi est dit, ça ne passe pas. De toute façon, il y aura toujours un groupe de personnes qui ne sera pas d'accord avec ce que tu as dit, la virgule où elle était placée, ou je ne sais pas quoi. Mais vraiment, je pense que c'est très, très actuel. Parce qu'avant, avant que tout le monde entende, comprenne ce que tu avais dit, ça y est,
c'était fini. Faudrait
tenter,
la Terre est ronde.
Oh, mais elle est plate, par contre, voilà. S'il te plaît. Merci.
Voilà.
Tu donc vois, ouais, je pense
même
que
ça passerait pas.
Mais non, mais il y a plus rien qui passerait.
Non, plus rien.
Et moi, j'étais forcément dans des camps.
Choquée, quoi.
Était forcément dans des histoires de camps et tout ça. Moi, je sais que fut un temps au démarrage, j'essayais de répondre même à mes détracteurs et tout ça.
Je
me souviens de ma fille qui me disait, maman, arrête, en fait, c'est pire. Enfin, et je m'en sortais pas. Enfin, j'essayais, mais
et ça te prend en trip en plus.
Ah, non, mais puis ça. Alors maintenant, je les laisse m'insulter en se donnant à cœur joie, parce qu'en fait. Forcément, il y a toujours des gens pour vous insulter. Après, bon, on a des petits moments marrants. Là, aujourd'hui, j'ai eu Maëva Guénam qui a ajouté ma vidéo à ses favoris. J'étais trop fière. Voilà. parce que je trouve que quand même, elle prend cher, cette jeune femme.
Exactement.
Elle a des défauts, mais tout le monde.
Ça, voilà.
C'est quoi ?
Qui ça ?
Maëva Guénam.
Okay.
Grand voilà.
C'est de la ref.
C'est de la ref.
Mais
bon, c'est pour dire que la question des réseaux, ça fait partie du monde dans lequel on est aujourd'hui. On est dans un monde d'instantanéité. C'est quelque chose. Enfin, la réflexion. Mais la consommation, elle n'est pas nouvelle non plus. Mmh. Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est rentré dans l'ère de l'industrialisation, on allait vers ça. Aujourd'hui, c'est le néolibéralisme qui fait que les individus, en plus, deviennent des entreprises. Enfin, donc, on est des entrepreneurs de nous-mêmes à tous les endroits, ce qui est un truc très particulier et qui est très présent dans le milieu du rap, hein, pour le coup, avec tout le côté développement personnel qui va avec, qui est ultra dangereux, qui justement va dans le sens de ne voir que soi, sa réussite. Enfin, donc, comment penser
dans la musique en général,
dans le spectacle en général, c'est vraiment... Enfin, il n'y a que des yes-man autour qui vous disent que tout ce que vous faites, c'est génial. Donc, personne ne se remet en question. Donc, tout le monde est convaincu d'être meilleur que tout le monde et d'être la star qu'il n'est absolument pas. Résultat, ça crée des rapports de domination à tous les endroits, des rapports de violence à tous les endroits, et qui va amener aussi à ce que les gens sont dans une espèce d'instantanéité. Tu m'aimes ou tu m'aimes pas, en fait. Et si tu m'aimes pas, je t'en veux. Mais ça, c'est
cool. Ça ressort dans tous les domaines, hein, ce côté-là.
Ah ouais.
Que ça soit pro ou perso, même par exemple, je disgasse, mais tu vas sur les sites de rencontres, c'est la même chose. Tu vas, t'es là, tu vas être au resto, tu vas prendre une photo, c'est pareil, c'est la même chose. Enfin, tout est en mode j'ai
les
besoin
de
la
hip-hop,
ça n'existe pas.
Mais c'est là où c'est pour relier à la question.
Non, mais c'est dans le sens où tout est lié.
Il y avait une dimension anticapitaliste au hip-hop. C'est pour ça que c'est là-dessus que je voulais arriver aussi. Voilà. Et cette dimension, pour le coup, au hip-hop, pas au rap, au hip-hop, j'insiste, parce que
c'était du côté de la culture, c'est au sens ça. De ce qui faisait le lien entre les esthétiques. Et c'était justement dans les discours qu'il pouvait y avoir. Il y avait quand même des enjeux avec les Black Panthers, il y avait des enjeux aussi avec le marxisme noir. Enfin, bon, il y avait des enjeux qui étaient forts, justement. Donc, d'où la question anticapitaliste qui était quand même très présente, notamment dans la côte Est, moins côte Ouest, mais elle était quand même présente aussi, malgré tout, en fait, même dans le gangsta. Et c'est-à-dire que c'était un capitalisme débridé pour justement lutter contre le système capitaliste classique. Enfin, c'était une espèce d'économie de subsistance. Enfin, il y avait des enjeux comme ça qui étaient importants. Et aujourd'hui, cette question anticapitaliste, mais j'ai envie de dire, à aucun endroit on arrive à pouvoir la poser. Et les réseaux, par définition...
Il n'y a pas d'anticapitalisme.
Mais en fait,
j'apporterais quand même une nuance. Je dirais qu'elle est posée par certains artistes, mais justement, ce qui a changé, c'est que le rap étant devenu massif à l'heure actuelle, finalement, c'est noyé dans une masse de rap qui est clairement, du coup, dans la veine capitaliste, qui joue complètement le jeu de l'industrie. Et à une époque où un Rossé, par exemple, avait une certaine audience, maintenant, il est noyé parmi plein d'autres choses. Alors qu'avant, tout le monde, enfin, tous ceux qui connaissaient le rap connaissaient ce genre d'artiste-là. Maintenant,
pas forcément. Non. Moi, ouais. en fait, pas forcément. Ça, ouais. C'était déjà des artistes de niche, en fait.
En tout cas, il perdure ce rap de niche.
Il perdure. Et j'en ai un livre, donc il existe. Mais il est
encore plus noyé qu'avant.
Non, il n'est pas forcément noyé. Je dirais plutôt que c'est l'industrie qui a formaté quelque chose. Et donc, rentrer dans l'industrie aujourd'hui, nécessairement, c'est plus faire. J'ai envie de dire, la question anticapitaliste, elle ne peut pas aller avec l'industrie, par définition.
Bien sûr.
Donc, à partir du moment où on cherche à vendre, et pour moi, c'est pour ça que la question de la carrière est en fait en filigrane, à partir du moment où on cherche à vivre de son art et donc à vendre des CD, on rentre dans un système capitaliste et donc dans un système où, en fait, on va devoir faire plaisir aux clients. Voilà, le client devient roi. C'est aussi bête que ça.
Tous les sons sont commerciaux.
Exactement.
C'est ça.
Et il y a un moment où, sinon, ça veut dire d'accepter qu'on ne va pas en vivre. Et qu'on va donc devoir faire d'autres choses. Et là, on peut garder, j'ai envie de dire, sa passion intacte. Et c'est ce que Naïra a expliqué dans une petite d'ailleurs vidéo Combini, vachement bien, où elle dit, mais en fait, quand j'ai compris que l'industrie, de toute façon, ne me permettrait pas de faire les sons comme moi je voudrais, eh ben, j'ai trouvé un taf à côté, et je fais mes sons, point.
Et t'en as beaucoup qui sont comme ça. Hein.
Ouais.
Et merci, mais on arrive à la fin de cette émission parce que le temps tourne, hein. On pourrait en parler des heures et des heures et des heures et des heures, ça passe vite. Il y a plein de sujets qu'on a un peu survolés, qu'on pourrait approfondir sur d'autres émissions, pourquoi pas un autre crossfade.
Crossover.
Non, mais j'avais envie de dire crossfade par rapport au DJ.
D'accord.
C'est pour ça.
Ça marche. Et on n'a pas vu. Vous n'avez pas vu les mains, mais les mains étaient là, quoi.
Il y avait les mains pour aller avec.
Là, on était dans le petit lieu de joue à fond, quoi.
Merci, Jason, pour la technique.
Ouais, carrément. Mais juste avant la fin, on va se faire un petit tour de table avec la question, du coup, Sophia.
Oh là là.
Bon, on connaît un peu les réponses.
Ouais, je pense.
Un artiste hip-hop a-t-il le devoir de s'engager? Un petit tour de table comme ça en 10 secondes.
Moi, je dis oui.
C'est compliqué, franchement, j'ai du mal. Hein. Oui, mais bof.
Elle dit oui, mais bof.
Ouais, mais oui, bof.
Okay.
Moi, je suis partagée. Je me dis qu'à la fois, l'artiste, il a le droit de vivre de son art de la manière dont il l'a choisi, que ce soit en prenant ou pas sa position.
Et moi, je vais faire chier, hein, parce que j'estime qu'il n'y a pas de devoir qui tienne, il n'y a que des droits, il n'y a pas de devoir.
Ah, j'adore.
Merci.
Et moi, je dirais non.
Et toi,
je savais qu'il allait dire non.
Oui.
Merci en tout cas à vous pour l'accueil.
Ben merci, merci. Je te laisse clôturer cette émission, Sophia.
Ouais, ben écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Ce qu'on retiendra de ce ça dit quoi, c'est que finalement, chacun décidera en son âme et conscience de si les artistes ou pas doivent s'engager. Voilà comment j'ai envie de conclure.
Parfaite conclusion.
Chacun voit le hip-hop à sa porte.
Exactement.
Cette culture, elle est à vous, elle est à nous.
Un gros merci à Jason à la technique et à Daniel Mendy, chef d'antenne.
Le boss.
Et à Sophia, un grand merci à toi d'avoir préparé cette émission et à toute l'équipe pour avoir apporté sa pierre à l'édifice. Et
merci Loïc de nous avoir accueillis.
Mais avec grand plaisir.
La prochaine de Hip Hop 360, c'est le 26 mars.
Ah, c'est une invitation ?
Ben écoute,
trop
pourquoi
cool.
pas.
Non, les quotas, trop cool.
Non, c'est woman only.
Bah je peux. Hein.
Mais attends, avec ses locks, c'est
ouais,
bon.
Il y a moyen.
Mais qui t'a dit que c'était un homme? Qui t'a dit que c'était un homme? Non. C'est toi qui veux vous faire croire que c'est un
t'es
homme.
T'es un homme ou un CD-ROM? Je sais plus c'est dans quoi ça. Non, c'est pas sniper ou quelque chose.
Si, t'es un homme ou un CD-ROM?
Ouais, c'est dans
le clash avec Aketo. Aketo tunisien.
T'es un homme ou un CD-ROM?
Ouais, j'adorais ce clash.
C'est le meilleur clash du rap français.
Ouais, c'est vrai.
Je l'écoute avec mon fils.
Il y avait aussi.
Sherio Akhenaton.
Moi, j'ai bien aimé Jackie et Lord Co City.
Ah ouais, ouais, mais bon. C'est pas le même niveau. Là, on voit que Aketo est une ils sont tellement pas ouais.
C'est ça.
Ouais. Et surtout, ça vient tailler le physique bien comme il faut. Quoi.
T'es un homme ou un pélican?
Ouais, un homme ou pélican. T'as la tâche, moi, d'Artagnan. Bref, pardon. Ouais. on se revoit très bientôt. Et merci beaucoup.
Merci.
Salut.
Merci.
Merci.
Hip Hop 360. L'émission qui fait le tour de la question.